Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
J'ai fait tiens, vas-y et tout, je vais essayer de me lancer parce qu'en scrollant, par contre, j'étais tombée dans le TikTok anglophone sur des vulgarisateurs anglophones. Et j'avais fait, ah ouais, mais attends, il y a ce mec qui parle d'histoire de l'art et tout, et elle, elle parle de ça et machin, trop bien, tu vois. Donc je me lance et je fais le truc avec le fond vert, là, je mets un tableau derrière moi, je raconte le tableau, fin d'histoire. Et en fait, le premier TikTok, il explose, tu vois, et je suis plus à 300 000 vues et tout, je fais, oh, trop bien. Et je me suis pris mes shoots de dopamine, donc pendant 3 mois j'en ai fait un par jour. Au moins ça m'a permis de me rendre compte que non, il n'y a pas que du mérite, il y a aussi de l'algo, tu vois. Enfin, je pense que si c'est nul, ça peut pas marcher comme mes tout premiers qui étaient ridicules. Mais là quand même, tu le vois à l'œuvre, vraiment.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Manon, comment ça va?
Ben ça va et toi?
Je sature un poil, mais ça va.
Tu satures de mon micro, satures de la vie?
Je sature du micro, pas de la vie, ça va encore.
T'as pas encore rendu ton... C'est bon, non, je suis encore là.
Manon Bril.
Oui, c'est moi.
D'où te vient déjà ce pseudo? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il est fin ce jeu de mots.
Oui.
Donc tu as entendu, Manon Bril.
Ah oui, je l'avais pas.
Parce que les gens, ils entendent pas toujours, oui.
Ils ont pas?
C'est un peu le commentaire que j'ai depuis le début très régulièrement. Ah, nombril. Ou alors des gens qui ont pas entendu et qui ont entendu mais qui pensent pas que c'est fait exprès et du coup ils font oh, ses parents ils sont pas sympas. Alors, c'est vraiment le jeu de mots. Et ça vient juste du fait que avant d'avoir ma chaîne et compagnie, j'étais prof des écoles et en 2008-2009, là, je sais plus, comme tout le monde, j'ai ouvert une page Facebook et je me suis dit, ah, j'ai vraiment envie que les parents d'élèves y retrouvent ma page Facebook. Je vais mettre un pseudo et comme Facebook, c'est nombriliste, j'ai mis ma nombril, tu vois. C'est un peu le nom de son dérision, en fait. Voilà. Bref, donc un super pseudo, mais en fait, il est pas mal parce que ça s'entend pas vraiment si tu le dis pas trop à voix. Enfin, on pourrait croire que
c'est ton vrai nom.
Contrairement à, je sais pas, Seb Lafrite. Ça sonne moins comme son vrai nom. Tu dénigres pas son surnom.
Seb, il s'appelle Frit.
Il s'appelle Free. Ah, c'est pour ça. Ouais. C'est pour
je
ça.
Je crois. Hein.
Attends, j'en sais rien.
Mais si, je crois que si.
Je pense qu'il s'appelle pas La Frite et qu'il a fait un jeu de mots avec, j'imagine. Mais d'ailleurs, il l'utilise plus, ça, non?
Seb La Frite? Non, je crois qu'il se fait appeler Seb désormais.
Ouais. Bah, peut-être parce qu'il en a eu marre. Parce que ça. J'en sais rien. Moi, je parle à sa place, alors comme si n'importe quoi. Mais je me dis, Bril, l'avantage, c'est que, on dirait un vrai. D'ailleurs, c'est littéralement un nom de famille, une maison d'édition qui s'appelle comme ça ou quoi. Donc, ça passe, tu vois. C'est pas trop le jeu de mots, même si c'est un peu nul. J'ai pas trop honte avec le temps. Ça va.
Ok. On va parler un peu de ton histoire. Mais avant ça, Manon, donc, pour les gens qui te connaissent pas, mais. Comment ça?
Quoi?
Tu es surtout connue pour cette chaîne que tu as lancée il y a 6-7 ans maintenant, c'est ça? Bientôt 7?
Et écoute, 2015, septembre 2015, donc 6 ans.
6 ans et demi.
6 ans et demi, tout à fait. Oh
là, là. Là, vous ne la voyez pas, mais elle regarde dans le vide en disant que le temps passe vite.
Ouais, puis en âge internet, ça commence à dater, quoi.
Bah oui, là, t'es prêt.
C'est clair.
T'es avant les pranks, quoi.
Ouais, non, tu crois? Avant les francs, je sais pas, peut-être en même temps.
Non, disons que t'as fait partie de cette vague de vulgarisateurs à un moment donné, il y avait beaucoup ça sur YouTube.
Moi j'ai l'impression d'être la deuxième vague. Quand je suis arrivée, il y avait déjà des grosses chaînes de vulga qui étaient en place, tu vois. Enfin, en tout cas, que moi je regardais, machin et tout, j'en connaissais pas tant que ça d'ailleurs, mais je regardais Le Faux Soyeur de Film, je regardais Axolotl. je connaissais y penser, tu vois. Et
oui, c'est vrai.
Du coup, j'ai l'impression que c'est la première génération, mais c'est vrai que ça joue à, pour certains, 1 ou 2 ans avant, Nota Bene, tu vois, c'est genre 1 an avant, 2 ans avant, un truc comme ça. Et en fait, bah, pareil, en âge internet, t'as l'impression que c'était il y a longtemps. Donc moi, j'ai toujours l'impression d'être pas la nouvelle, parce que maintenant c'est bon, je suis plus la nouvelle, mais quand même la deuxième génération. Mais je pense qu'aux yeux de gens qui commencent maintenant, je fais partie de la première peut-être.
Oui, c'est
mais
ça.
Bon, en tout cas, quand je suis arrivée, il y avait déjà des trucs en place. Il y avait déjà la Vulga qui s'était structurée aussi, tu vois, entre eux, ils se connaissaient. C'était déjà un peu un groupe. Il y avait la vidéothèque d'Alexandrie qui avait été mise en place, qui était même limite déjà sur le déclin, je crois, tu vois. Donc, enfin, sur le déclin. C'était moins intense qu'à une autre période qu'ils avaient eue, je veux dire. Et voilà. Donc, mais bon, néanmoins, quand même, maintenant, ça fait longtemps que je suis là.
C'est historienne vrai. De formation.
Ouais. J'ai un doctorat, tout à fait.
On va en reparler de tout ça.
Ouais.
Et effectivement, là, tu es devenue maintenant une productrice pardon, de vidéos sur les internets. Quoi. C'est vraiment devenu ton métier.
Eh bien, écoute, oui. Donc, productrice, puisque maintenant, enfin, ça fait un moment que je fais travailler des gens aussi, que, eh bien, il est normal de les rémunérer dès qu'on peut. Enfin, dans un premier temps, on a tous fait bénévolement. Puis, quand ça commence à générer de l'argent, c'est quand même bien normal de payer les gens. Et pour les payer, ben, il faut avoir une structure. Et donc, depuis un moment... J'ai une boîte. Alors au début, j'étais en auto-entreprise, puis on bidouillait avec mes potes un peu au black, machin et tout. Puis après, bah voilà, quand on a commencé à décrocher des CNC, des trucs comme ça, il fallait soit passer par une autre boîte de production, ce qu'on a fait au début, puis ensuite on a fait nous-mêmes. Et pour ça, et ben notamment pour pouvoir faire des cachets d'intermittence à mon caméraman, à Lucie, la dessinatrice avec qui je travaille, et maintenant avec son équipe, puisqu'elle est plus toute seule à faire les dessins animés, bah, il nous fallait une boîte de production qui permette de faire ce statut-là. Donc, on a créé une première boîte, mais dont le statut convenait pas trop, et on vient d'en créer une nouvelle pour être bien comme il faut. Et c'est une petite boîte de production, tout à fait.
Bravo.
Merci.
Et on va parler de justement de cette histoire de dessin animé. Il y a un moment donné où tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire des dessins animés, ce qui n'était pas un format très répandu sur YouTube à l'époque. En tout cas, en France, il y en avait assez peu. Quoi.
C'est vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça. Les tout premiers que j'ai faits, c'est Cola Bim qui me les a proposés à une époque où on traînait ensemble. Et donc, il m'avait dit, hey, on fait ça te dit, on tente de faire des épisodes ensemble. On en a fait 2 ensemble. Et ensuite, donc, c'est Limlu, qui est toujours la réalisatrice de ces épisodes, qui m'a dit « Eh, vas-y, nous aussi, on essaye d'en faire ensemble et tout. » Donc, on en a fait un premier ensemble, 1 ou 2 premiers ensemble, puis ça marchait bien, puis on s'est dit « Il faut pérenniser ce truc et tout. » C'est là que je suis allée chercher, monter les dossiers, chercher les CNC, les machins, pour pouvoir bah, la payer, parce que pour le premier, elle m'a fait vraiment une fleur avec... un tarif très très réduit, mais tarif d'amis pour l'essai, on va dire, mais extrêmement ridicule. Et ensuite, elle m'a dit, bah go, mais par contre, vu le temps que ça prend, évidemment, je pouvais pas lui demander de faire ça gratos, c'est pas normal. Donc, on est allé chercher des sous pour la payer. Dans un premier temps, le CNC, il passait entièrement dans son salaire. Et puis, petit à petit, on a pérennisé avec déjà la monétisation qui est enfin devenue intéressante. Parce que jusque-là, ça rapportait vraiment genre 200 balles par mois. Mais avec les épisodes annuels, on s'est mis à faire beaucoup plus de vues. Donc, ça a commencé à être des revenus qui restent ridicules par bon nombre de vues, à mon avis, mais qui génèrent quand même de l'argent. Et on a commencé aussi les placements de produits, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de secret. C'est là qu'est l'argent. Et si on veut payer les gens comme il faut aller le chercher là où il est. Quoi.
On va reparler de tout ça, de ton modèle économique, parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais avant ça, c'est la première question que je pose à tous les invités. C'est à quoi tu ressemblais, Manon, quand tu avais 7-8 ans?
Quand j'avais 7-8 ans, écoute... je sais pas, je crois que je suis une petite fille plutôt un peu discrète et tout, mais ça dépendait des contextes. Quand j'étais toute petite, j'étais très chiante, apparemment. J'étais l'enfant qui se roulait par terre dans le supermarché, tu vois.
Ah, yes.
Ouais. Et donc, c'est ce que mes parents me disent. Même, apparemment, fallait emmener une copine avec moi en vacances pour que je sois moins chiante. Tellement j'étais relou. Voilà, et en fait, je sais pas si c'est ça qui a changé ou non, mais je me souviens d'un jour où j'ai fini par faire pleurer ma maman.
Oh.
Et ça m'a... Ouais, je me souviens pas pourquoi, mais je me souviens d'elle qui s'enferme dans la cuisine en pleurant parce qu'elle en peut plus. Et de moi qui tape sur la porte en ayant compris d'un coup que je lui faisais mal, en fait, et en étant terrifiée, tu vois. Et en faisant « Non, maman, pardon, pardon, pardon !» et tout. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, j'ai... Mais je sais pas si c'est une légende que je me raconte ou pas, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ça m'a calmée et j'ai compris, tu sais, l'empathie, tu vois, genre « Ah putain, mais en fait... moi, je me roule par terre pour X raisons, parce que je suis pas contente, j'en sais rien. Mais ça fait mal aux autres et j'ai pas envie de faire mal aux autres, tu vois. Donc, voilà, je sais pas si c'est un souvenir édulcoré ou pas. Mais c'est mon chemin, on va dire.
Ouais. Voilà. Et à l'école, c'était cool ?
Ouais, l'école, c'était cool, carrément, rien de... Mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 8 ans, donc bon, bah, comme tous les enfants de parents divorcés, c'est pas des années marrantes, mais je pense qu'ils ont fait comme ils pouvaient dans leur vie d'adulte, avec leur truc d'adulte pour nous épargner et tout, même si, évidemment, c'est pas marrant, tu vois, mais voilà, donc non, franchement... Oui, c'était... Enfin, ma maman, elle a pu souffrir parce qu'elle s'est fait quitter, etc. Mais tu vois, bon, c'est... Je sais pas comment dire, c'est la vie, quoi. Donc, non, mais enfin, c'est...
C'est la vie.
Ça me causait de la peine, tu vois, de voir ça, mais je sais pas comment dire, c'est... Je pense pas que ça soit bien de rester ensemble si on s'aime plus non plus, tu vois. Donc, et que ça serait pas forcément bien passé pour le temps. Mais c'est sûr que, par contre, toi, d'un coup, en tant qu'enfant, tu comprends qu'il y avait un problème que tu voyais pas parce que devant toi, les adultes, ils faisaient semblant, tu vois. Donc, je me souviens de ces trucs-là. Après au collège j'étais plutôt mal dans mes baskets et je me faisais un peu bolos et tout ça, donc plutôt comme ça. Et après au lycée à l'inverse je me suis beaucoup plus épanouie, j'ai l'impression que le climat a été moins stressant qu'au collège, que du coup
t'es devenue un peu plus populaire, c'est ça, ou ouais, t'avais des amis?
Ouais, carrément. Bah j'avais des amis au collège, mais on était un peu les nulos entre guillemets.
Ah oui.
Enfin, en fait,
c'est quoi, t'étais un peu les nerds de... ça, mais... T'étais un peu les intellos, c'est ça?
Ouais, ou... nous, on était plutôt un peu les... Je sais pas, même pas d'ailleurs. On n'avait pas forcément toutes des bonnes notes, mais... En fait, on était plutôt celles qui n'arrivaient pas à répondre quand on les attaquait, tu vois.
Ah oui.
C'est plutôt ça, mais on n'était ni spécialement geek, ni spécialement intello, ou nul non plus, d'ailleurs. On était middle, enfin, je sais pas, on était normal, j'ai l'impression, enfin, banal. Mais... on avait ce truc de pas avoir le répondant quand les autres ils venaient nous chamailler et du coup on se fait, et du coup enfin tu sais c'est comme c'est la jungle,
la loi de la jungle,
si
quoi.
Tu te laisses taper dessus, bah c'est un terrain de jeu pour les autres, donc voilà. Et après au lycée j'ai l'impression que ça, tout ça c'est parti, et là je me suis bien plus sentie dans mes baskets et je me suis sentie carrément plus populaire entre guillemets, dans le sens où c'était plus facile les relations avec tout le monde et je m'amusais bien et je connaissais plein de gens dans le lycée et je me sentais bien dans mes baskets carrément. Donc je pense que c'est un mélange de plusieurs trucs, de toi qui mûris et probablement les conditions du lycée qui sont, enfin tout le monde a grandi aussi, ouais. Donc tout le monde s'est probablement un peu calmé. Je pense que les enfants qui détestent l'école et qui du coup sont difficiles à l'école en partie ne vont pas au lycée et font des voies professionnelles, etc. Donc potentiellement si eux ils étaient malheureux à l'école, ils nous le faisaient payer entre guillemets d'une manière même pas forcément consciente, mais voilà. Et donc là je pense qu'au lycée tu commences à avoir un peu de tri sur ça et c'était un milieu plus facile. Bon, je fais un peu des généralités, mais je m'y suis sentie mieux en tout cas, en ce qui me concerne.
Ils font quoi tes parents comme métier, ou ils faisaient quoi à l'époque?
Alors mon père il est bon, tout fraîchement retraité, mais il était prof à la fac, maître de conf en physique, électronique, truc de sciences dures. Hein. Je sais pas trop exactement quoi, parce que si, il travaille sur l'énergie et la conversion d'énergie et la thermophysique ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Mais quand j'étais petite, il me disait qu'il faisait des éclairs dans un labo. Voilà.
Super.
D'accord, donc ça avait l'air stylé. Donc en gros, voilà, science dure. Et ma mère, elle travaillait dans le sauce. Enfin, au début, elle avait pas son bac. Elle a fait plein de petits boulots à la con, parce que quand mon père est parti, du coup, elle travaillait plus pour s'occuper de nous. Donc elle a repris... Enfin, d'abord, elle a fait des boulots pour pouvoir payer les factures. Et ensuite, elle a repris ses études, elle a passé l'équivalent bac et elle a travaillé dans le social.
Okay.
Et genre, je sais pas, genre à 40 ans, tu vois, un truc comme ça. Enfin, dans la quarantaine, je pense. Et elle était diplômée, elle était conseillère en économique sociale et familiale. Et du coup, elle travaillait avec un public de... notamment dans des centres d'accueil pour SDF, de jour ou de nuit, voilà. Dans le social, donc.
Ok. Donc, reconversion, enfin, en tout cas, reconversion tardive, quoi.
Ouais,
pour ta
carrément.
Mère.
Bah, ouais,
un peu obligatoire.
Un peu obligatoire, et puis, en fait, c'est marrant parce que tu sais, c'est ces générations où tu trouvais du travail comme ça. Donc, elle n'avait pas son bac, mais à l'époque, elle était montée à Paris, elle a trouvé du travail tout de suite au PTT. Et ensuite, dans les PTT, quand ils s'étaient installés à Pau...
Donc c'est la poste, hein, pour les plus...
tu sais qu'en plus, je dis les PTT parce qu'elle me disait les PTT, parce qu'à l'époque, on disait ça, mais moi, je dis pas les PTT quand je parle de la poste, c'est fou. Bref, donc oui, non, oui, c'est clair. Donc à la poste, Et en fait, quand ils sont arrivés à Pau, parce que mon père a eu son poste d'universitaire à Pau, puis il est toujours là-bas. Et quand elle est arrivée à Pau, elle a trouvé du boulot par les PTT, donc, par la poste, pour faire du montage d'entreprise. Et donc, elle faisait du montage pour des vidéos d'entreprise et tout. C'est assez drôle parce que les dernières années de sa vie, je lui déléguais des montages que j'avais à faire pour certains trucs, pour certaines pastilles pour mon université ou quoi. Je lui faisais monter les trucs pour les choses assez basiques et du coup, elle avait trop gardé les mêmes réflexes. Mais elle avait fait du montage à l'époque où c'était des trucs physiques.
À l'ancienne.
Ouais. Et du coup, elle me disait, je lui montrais première, tu sais. Ouais. Ouais, littéralement, elle me disait, ah ouais, mais c'est hyper instinctif, c'est les mêmes mots de vocabulaire parce que cut et tout, c'est parce qu'on coupait les bandes, parce que machin, le chutier, tu mettais tous tes chutiers de bandes. Elle me dit, c'est quand même plus facile parce que nous, quand on avait jeté une bande qu'on voulait récupérer, fallait fouiller dans le chutier et tout, l'enfer, tu vois. Mais non, vraiment, elle
avait
du montage
physique. Vous ne vous rendez pas
compte
aujourd'hui, vous montez sur votre iPhone.
Ah non, mais tellement, bah ouais, t'imagines, le gap est fou, ouais.
En l'espace de 25-30 piges, quoi.
Ouais, c'est assez incroyable. Mais du coup, même système, là, en fait, les logiciels, on n'est pas vraiment surpris, mais les logiciels, ils se sont inspirés des méthodes physiques pour concevoir leurs interfaces, quoi. Carrément.
Hyper malin. Ok, et quand est-ce que tu commences à te faire picouser à l'histoire ? Depuis que t'es toute petite ou...
Eh bien, non. Alors... Bon, le côté mythologie et tout ça, j'ai toujours trop aimé, puisque du coup, j'ai fait mon doctorat sur la déesse Athéna. Ouais. ça, j'ai toujours bien aimé ces histoires-là et tout.
C'est génial, franchement.
Ouais, mais grave, c'est des histoires fascinantes. C'est pas pour rien que c'est toujours... Il y a toujours un engouement pour ça, qu'on continue de les recycler dans la pop culture, que machin, évidemment, parce que c'est des histoires épiques et tout. Et donc, ça, j'aimais bien. Et ma mère, elle a parmi les... truc qu'elle faisait avant de reprendre ses études pour de vrai, elle a fait un peu d'histoire de l'art aussi, et donc j'aimais bien parce que justement elle nous racontait les tableaux comme j'ai fait dans mes premières vidéos. Okay. Où j'expliquais les tableaux, elle me disait alors ça l'histoire c'est ça nanana et tout, ça j'aimais bien. Mais en vrai la discipline, c'est surtout parce qu'en prépa j'ai eu des profs géniaux, c'est souvent comme ça. Et moi, j'ai fait un bac S, donc tu vois, j'ai eu 11 au bac, je crois, en histoire. Donc pas spécialement bonne ni intéressée au lycée. Mais par contre, je suis partie dans une prépa littéraire parce qu'il y avait une option art plastique. Et à l'époque, je dessinais et j'avais pour ambition de faire des écoles de dessin animé.
Ah, fou.
Que j'ai totalement arrêté. Mais j'adore faire du dessin animé, mais en étant à l'écriture maintenant et pas au dessin. Enfin, j'aime bien cette ironie de mon parcours. Ouais, carrément. Mais bref. Et donc là, j'ai eu deux profs donc en hippocagne d'histoire qui étaient fascinants, tu vois. Et après l'hippocagne, comme rarement tu passes dans les grandes écoles, et moi en plus j'ai même pas fait la canne, j'ai fait que l'année d'hippocagne. Ben, je suis allée en L2 d'histoire parce que c'était la meilleure discipline que j'ai vue l'année d'avant. Et en fait j'ai trop aimé, quoi. Mais d'abord j'ai été prof des écoles avant de revenir à l'histoire. J'ai fini ma licence d'histoire, et à l'époque tu passais le concours des écoles, de prof des écoles à ce moment-là. Donc j'ai fini ma licence d'histoire, j'ai fait la prépa concours, j'ai eu le concours. Et j'ai enseigné pendant 3 ans, où je me suis mise à mi-temps parce que j'avais détesté la formation de prof. Vraiment, genre, l'IEFM, j'avais haï.
Mais pourquoi tu t'étais lancée là-dedans, alors ?
Ben, parce que quand t'as pas masse d'idées et que je viens d'une famille de profs, tu sais.
Ah,
donc,
oui.
Enfin, du côté de mon père.
La reproduction sociale.
Exactement. Mais moi, j'ai vraiment une théorie sur ça, qui est que ça arrive beaucoup que les enfants de profs, ils deviennent profs, parce que juste, en fait, tous les adultes autour de toi font ça. Les profs et tes parents, ils font ça. Tes parents, ils sont souvent, c'est pas obligé, mais c'était pas le cas chez moi, mais souvent ils se rencontrent au boulot, donc souvent les deux parents, ils sont profs. Les adultes que t'as à l'école, ils sont profs. Et en fait, c'est le seul modèle dans lequel tu te projettes, donc t'as énormément de reproduction. C'est pas systématique, mais ça m'étonne pas, tu vois. Si tu sais pas trop quoi faire, ce qui était mon cas, tu fais bon, bah les adultes, ils font quoi ? Ils font ça après quand ils sont grands, puis comme ça, t'as toujours les vacances, puis nana et tout, tu vois, tu te dis ça.
Donc je suis partie vers ça. C'est mieux parce qu'on a Internet. Il y a des podcasts, tu vois,
ouais,
où les gens peuvent entendre d'autres parcours.
Carrément.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, je crois qu'il y avait vraiment ce truc de... Ça t'enfermait dans un truc.
Je pense que c'est assez logique déjà. Bon, ça, c'est un truc classique de ton habitude. Tu te projettes pas forcément beaucoup plus loin, mais peut-être pas identiquement dans les métiers de tes parents. Mais là, en tout cas, non seulement les adultes autour de toi, ils font que ça, mais en plus, la journée, je pense, tu peux te dire « Ok, c'est ça le travail de papa et de maman. » Parce que les autres... Tu vois, par exemple, ma mère, j'avais moins d'images de ce qu'elle faisait. Mon père, je savais qu'il donnait des cours à la fac, même si en vrai, bon, rien à voir avec ton prof de lycée. Mais du coup, j'avais une projection de c'est ça, son quotidien. Donc du coup, tu te représentes le métier. J'ai l'impression que, tout simplement, après, tu te projettes plus là-dedans, quoi.
Okay.
Même si, bien sûr, c'est pas obligé, mais... bon, voilà.
Donc, tu fais la formation.
Oui, donc je fais la formation.
Tu détestes ça.
J'ai détesté l'IFM. J'ai trouvé, ça me fait chier à mourir. J'ai trouvé que c'était une horreur et je me suis dit, ah, je vais pas du tout aimer ce métier.
Mais qu'est-ce que tu détestais dans la formation, en fait?
Mais parce que c'est. Alors, je sais pas comment c'est maintenant, mais du coup, moi, je suis passée à la. Donc, à l'ancien concours. Maintenant, il faut un master et tout. Et moi, c'était quand même. Je pense même que c'était des meilleures conditions parce qu'en vrai, on avait une année de formation payée.
Okay.
Avec des stages et tout.
T'étais sur le terrain, donc, avec
ouais,
des mots.
T'avais, bah, t'avais pas tant de terrain que ça, en fait. T'avais deux stages de trois semaines et tous les lundis, j'étais dans la même classe de okay. l'année. Pardon. Mais sinon, le reste, c'était des cours comme à la fac et tout, avec des profs d'université qui font de la recherche ou des enseignants qui ont passé des trucs de formateurs, mais qui font de la recherche sur les sciences de l'éducation. Et en fait, ils nous... J'avais l'impression que soit ils enfonçaient des putains de portes ouvertes, mais vraiment genre, eh ben il faut avancer au rythme de chaque enfant et tout. Enfin, t'es genre vraiment que des trucs de putain de bon sens. Ou alors, ils nous proposaient des trucs extrêmement compliqués que toi, en tant que jeune prof débutant, tu peux pas intégrer. Et des trucs de pédagogie poussés, je pense, hyper intéressants quand t'es un prof confirmé et que du coup, tu... T'as de la bouteille et tu peux réfléchir à d'autres modes d'éducation et mettre des trucs en place dans ta classe et tout. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était déjà survivre lundi prochain dans la classe, tu vois. Et en fait, c'était... Et donc, et les maîtres formateurs qui te disaient « Alors, on va faire une mise en situation freinée. Donc, imaginez que vous avez 10 élèves dans la classe. » Oui, mais moi, j'en ai 30, en fait. Non, mais imaginons. Vous avez... Ils te disaient tout le temps des trucs comme ça et tu fais... Mais trop bien, ton atelier, il est chambé, mais moi, j'ai 25 autres élèves à... Enfin, pas 25, voilà, je suis pas très bonne en calcul mental, en gros, je
crois. Ça fait 20,
mais
ok.
Ouais, voilà. Mais enfin, tu vois, bref, c'était que des trucs comme ça, soit qui me rendaient ouf, soit que je bitais rien, et dans la classe, c'était dur, tu vois, de trouver sa place et tout, alors que j'ai eu que des gamins quasiment mignons, j'ai eu un stage un peu dur, mais sinon, franchement, ils étaient choux. Mais comme t'es pas le prof titulaire, t'es toujours la maîtresse du lundi, ou genre, tu vois, c'est un peu ingrat. Et après, par contre, en enseignant, ça s'est carrément bien passé avec mes classes et tout, et j'ai vraiment kiffé les gamins. C'était plus avec les parents que c'était plus pénible, parce que, comme d'hab, les parents, tu leur dois des comptes et bidules. Et en plus, quand t'es jeune et que tu fais jeune, ils te prennent vraiment de haut, tu vois. Tout ça pour, d'ailleurs, à la fin de l'année, à chaque fois, j'avais le droit. Finalement, ça s'est bien passé. Oui. Attends de voir. En fait, c'est ça, tu vois. Si ça se passe mal, c'est normal que tu gueules. C'est absolument normal que tu ailles te plaindre de ton prof ou que tu discutes avec lui sans même parler de se plaindre ou quoi. C'est normal. Mais juste, viens pas être sur mon dos avant que tu saches comment ton enfant se sent ou comment ça se passe ou est-ce qu'il a des problèmes. Deux secondes. Enfin, bon, bref. Les parents. Mais bref.
Et c'est un peu les parents de cette génération-là, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, j'ai un peu l'impression que mes darons, ils étaient un peu moins sur le dos des profs. Ouais. Dans cette génération-là, un peu plus. Bon, bah, c'est le rôle de l'école, et en fait, ils vont se démerder là-bas, aussi, et nous, on a notre rôle à nous. Enfin, bref.
Bah, c'est vrai que t'avais un truc de quand tu punis un gamin, faut aussi justifier pourquoi tu l'as puni, tu vois. Et en fait, y a un en fait, c'est-à-dire que. Si le parent, il a pas compris la punition, encore une fois, je trouve ça sain et normal qu'il ait besoin d'en parler avec toi. Je dis pas du tout qu'il faut pas discuter, et surtout pas, tu vois. Et au contraire, c'est très important d'avoir le dialogue avec les familles, au contraire. Mais c'est juste que si ils viennent te prendre à défaut en te demandant des comptes, avec en plus le gosse à côté à qui donne la main, qui est le gamin, il entend. Maîtresse, elle dit de la merde, en gros. Tu peux être sûr que le gosse dans la classe après, il va jamais rien prendre de ce que tu lui donnes en fait. Quand bien même c'est des bons trucs et parce qu'il va se dire bah de toute façon. Ou alors éventuellement il va prendre ton parti, ça arrive aussi. Et c'est vis-à-vis de ses parents, bah ça dépend, tu sais, les enfants. Ouais. C'est maîtresse qui l'a dit, ça existe aussi, tu vois.
Bien sûr.
Et du coup les parents ils vont eux aussi être en difficulté. Enfin bref, on n'y gagne pas à devant l'enfant pas à coopérer. Je pense. Mais après voilà, je dis pas qu'il faut pas surtout pas ne pas discuter ou quoi, mais c'est juste. Tu sens qu'il y a un truc de bah on me doit ça, tu vois, et c'est pas normal, et mon enfant là, et tu dis bah si là en fait votre enfant il est turbulent ou alors il a tapé machin, c'est normal qu'il soit puni en fait, c'est voilà, c'est un fonctionnement de société. et ben des fois c'est compliqué. Alors bon, c'est toujours pareil, c'est qu'en plus tu te rappelles des parents qui ont été difficiles, mais il y en a aussi plein qui étaient adorables et trop mignons et qui te soutenaient. Mais quand t'es un jeune prof et tout, tu vois, ces trucs là c'était dur. Bref.
Moi, j'ai envie de leur faire des câlins, hein, tous les jeunes profs. Hein, vraiment, sacerdoce, quoi.
Ouais, déjà, c'est vraiment ingrat comme métier. Et en fait, c'est tellement important. On a trop besoin d'eux.
Et c'est trop mal considéré dans la société. Ouais. Il n'y a rien qui marche. Je vous fais des bisous, les profs qui nous écoutent.
Ouais, de ouf. Vraiment. Ah non, mais moi, ça ne me manque pas du tout parce que c'était épuisant, stressant. Enfin bref, et ingrat. Tout le monde te dit, oh, ça va justement. Oh, t'as les week-ends, t'as les vacances. Oh, vous êtes en grève. Enfin, mais tu n'as pas idée. Et surtout, t'es payé une misère pour le nombre de travail que tu fais. Enfin bon, bref. Donc ça me manque pas. Mais par contre, en classe, j'ai pris beaucoup de plaisir. Une fois que j'ai eu ma classe à moi et que c'était ma classe et qu'on pouvait construire un truc ensemble sur le long terme et tout. Mais comme je m'étais mise tout de suite à mi-temps en me disant, ça va pas me plaire, il faut que j'ai une roue de secours, j'avais démarré un master. Et à l'issue du master d'histoire, j'ai eu une opportunité pour aller en thèse financée. Donc j'ai pu arrêter d'enseigner. Mais je suis toujours prof, je suis juste en dispo. Depuis.
Encore.
depuis 2013, je crois. Je suis en dispo. Enfin, j'ai été détachée d'abord parce que j'avais mon contrat doctoral. Donc quand tu as un contrat à côté, tu peux faire valoir. Bref, tu peux continuer à accumuler tes points d'ancienneté puisque tu travailles pour l'État. Quand je faisais ma recherche, je travaillais pour l'État. Mais ensuite, en dispo, et depuis que je fais mes vidéos, je suis en dispo. Donc, je me fais oublier, tu sais, de l'administration. Donc, on sait jamais, tu vois. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, ils vont me dire, bon, bah, maintenant, faut démissionner et tout. Mais bref. Donc, pour l'instant, je renouvelle.
Parce que ça veut dire que demain, tu peux dire, écoutez, je suis
À la rentrée prochaine, je peux dire, je récupère mon poste, absolument. Enfin, mon poste. J'ai pas eu de poste à moi, attitré. Mais
moi, tu peux récupérer.
Mais j'ai le statut de prof et il serait obligé de m'attribuer un truc.
Ceci dit, je crois qu'il recherche. Donc, si tu veux, à mon avis, t'aurais pas trop de mal à trouver.
C'est ça.
À mon avis, il manque.
C'est ça. Ouais, carrément. Ouais.
Demain.
C'est ça.
Mais non, parce que maintenant, ils mettent tes vidéos dans les lycées pour faire les cours.
Ça n'est pas un cours. Attention, les vidéos ne remplacent pas les profs. Et puis, en tant qu'enseignant, je suis... Mais oui.
Mais je vois dans tous
Ah oui, tu veux dire, genre ma classe, ça pourrait être ça.
Bah grave.
Genre, en fait, si, je suis en poste, j'ai mis des vidéos et les élèves, ils regardent mes vidéos, c'est tout.
Tu restes à côté. Vous voulez un commentaire de texte? Je peux vous faire un petit auto-description, si vous voulez. Ça n'existe plus, les auto-descriptions, les commentaires audio, c'est triste.
Les commentaires, quoi?
Sur les DVD.
Ah, ouais, la version
Commentée par le réel, ou les acteurs, ou je sais pas quoi. Tu pourrais faire ça.
Bah, c'est les vidéos de react sur Twitch. Enfin, c'est les streams.
Quand tu fais toi-même tes propres react.
Ça se fait pas mal, ça, non? De mater un docu ou une vidéo de toi et de commenter avec ton chat ce que t'as fait et tout.
Je vois assez peu de youtubeurs qui font ça.
J'ai l'impression que ça se fait.
J'ai vu Antoine Daniel qui avait fait son propre react à une conférence qui était terrible.
Ah, mais oui, mais pour rigoler.
Mais pour rigoler, après il l'a refait 3 ans plus tard parce qu'il se souvenait. Il a fait le react à son react.
Ah, c'est bien ça. Trop drôle, il faut que je mette. Non, mais moi j'ai des potes qui font. Tu sais, ils expliquent quelle a été leur réflexion de.
D'accord.
Pourquoi là, dans ce trip-là, ils ont fait ce choix-là, qu'est-ce qu'ils ont enlevé, ils commentent, là en fait j'ai fait ces choix-là, machin. Ouais, qui commentent pourquoi le produit fini de cette vidéo, il est comme ça en gros.
Trop intéressant.
Ouais, carrément.
Ok, d'accord. Mais bref, revenons à ton parcours si tu veux bien. Donc effectivement, tu te lances à mi-temps et tu te dis. Qu'est-ce que tu vas faire de beau, quoi?
Alors à ce moment-là, je me dis, je vais faire de la recherche en histoire.
Donc tu te lances vraiment dans ta thèse à ce moment-là?
Ouais. Donc master, hop, terminé. J'ai une bourse de thèse, donc je peux arrêter d'enseigner en même temps et donc d'avoir mon mi-temps. Donc j'ai des revenus qui viennent d'ailleurs et je me lance dans la thèse. Et en fait, au début, je me dis, je vais faire de la recherche. J'espère parce que c'est dur, et c'est super dur d'avoir un poste. C'est très très bouché, donc mais bon, j'y vais avec toute ma volonté et j'ai trop envie de bosser dans la recherche. Et en fait, au bout de deux ans de thèse, je démarre la chaîne YouTube suite à une petite expérience de vulgarisation parce que j'ai participé à ma thèse en 180 secondes. C'est un concours organisé par le CNRS où les doctorantes et les doctorants ils présentent leur thèse en 3 minutes pour le grand public. Et donc moi j'ai participé, je crois que c'était la deuxième édition en France, je crois. en 2015. Et en fait, j'ai eu le prix du public à la finale régionale de Midi-Pyrénées. Donc, ce qui ne te qualifie pas pour la finale nationale, mais par contre, ça voulait dire que la majorité de la salle avait voté pour moi, tu vois. Et du coup, je me dis, ah cool, ça veut dire que j'ai convaincu la salle, tu vois, et peut-être il y a un public qui peut aimer mon ton et mes sujets. Et en même temps, à peu près dans les mêmes mois, j'ai fait une petite vidéo avec un pote qui se trouve être toujours mon réel aujourd'hui, et qui est caméraman et qui avait du matériel et qui sait faire de la vidéo et tout. On a fait une vidéo sur les curiosités de la ville de Toulouse pour répondre à un petit concours de court-métrage d'une asso organisée, qu'une asso de la fac organisée.
Ah, sur les... même, ouais, je savais même pas que c'était ça. L'objectif.
C'était okay. Juste pour... c'était un truc sur les 2 millions de la ville de Toulouse. Il y avait une asso qui faisait ça. Et justement, moi, je matais Axolot, qui avait sorti son étrange escale à New York et qui avait cette idée de dire, à New York, tout le monde connaît la Statue de la Liberté et compagnie, l'Empire State. Même si tu n'y es pas allé, tu sais ce que c'est. Moi, je vais vous montrer autre chose. Et je trouvais l'idée trop bien. Je me suis dit, tiens, on va faire ça avec Toulouse. Et en plus, vraiment en s'adressant aux Toulousains, tu vois, en ouais. disant, t'habites ici, mais pourtant, t'as jamais remarqué ça et tout. Et en fait, ça a trop marché. Et parce que, en fait, donc j'ai fait le petit court-métrage. Une fois que le concours était fini, je l'ai posté en ligne. Je crois que ça, c'est en juin 2015. Mais je l'ai mis en ligne sur Vimeo, car j'avais un ouais. compte Vimeo à l'époque. Et en fait, la vidéo, elle a grave... Enfin, tu sais, ça fait ce truc où, évidemment, les échelles sont plus les mêmes aujourd'hui, mais genre, je la poste sur Facebook pour la montrer à mes amis, en public. Et le soir, je reviens, il y a 800 vues, tu vois, ou un truc comme ça. Mmh. Et je fais, waouh, mais c'est fou, tu vois, 800 vues, alors que c'est juste sur mon Facebook perso que ça a tourné. Donc, trop dingue, trop bien. Et je sais plus, alors là je me rappelle plus si c'est moi qui l'envoie à la presse locale ou si c'est la presse locale qui tombe dessus, bref. En tout cas, il y a des articles dans des trucs comme La Dépêche ou Côté Toulouse et tout, en plus avec des titres genre « La Toulousaine qui connaît mieux Toulouse que vous » et tout, donc évidemment, les Toulousains, ils sont pas contents, ils disent « et tout. Et là, ça se met à faire des vues, et en une semaine, il y a 80 000 vues, tu vois. Alors qu'on est personne et que c'est sur Vimeo, et moi je suis là « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» et tout, c'est trop fou. Voilà.
Moi, je me souviens qu'à l'époque, je t'avais découvert par cette vidéo-là qu'on ouais. avait relayée sur Mag.
Ouais, carrément.
Et je m'étais dit, waouh, trop bien, une nouvelle meuf. Parce qu'à l'époque, ouais. il n'y avait pas beaucoup de meufs sur YouTube.
Il n'y en avait pas tant ça, mais ouais.
Une nouvelle meuf marrante, il y en avait encore moins.
Ouais,
et puis en plus qui a des propos qui a un propos marrant et puis qui est tu vois ta réelle elle était sympa et tout et puis t'avais un ton un peu
décalé
un peu marrant quoi tu vois c'était bah, pas trop quoi à l'époque
bah c'est vrai enfin je pense qu'il y en avait mais pas 10 000 en effet
oui
il y en avait mais pas 10 000 et c'est vrai que j'avais pas 10 000 modèles
en
tout cas
tous les mois il y avait pas une nouvelle meuf qui sortait ouais, c'est avec, vrai. Un peu dans ce
ouais,
ton là quoi
c'est vrai. Mais tant mieux si ça a changé.
Oui.
Et justement, bah, après, on s'est dit avec mon pote, vas-y, on pourrait essayer de faire une chaîne YouTube en alliant l'expérience vidéo, mais la ville de Toulouse, c'est pas spécialement ma spé, mais expérience vidéo avec mon domaine, l'histoire et tout, même si pendant un temps, j'ai continué les formats des villes, les vidéos de détail, j'appelais ça. Et justement, j'ai lancé la chaîne et je t'ai écrit. J'ai écrit à Mademoiselle, en tout cas, parce que je me souviens d'avoir maté l'interview, peut-être de Solange te parle, ou je sais plus, peut-être Solange te parle, ou je pense que c'est toi qui fais l'interview, si je me souviens bien, et tu dis, ouais, bah nous, on aimerait bien booster les meufs, je m'excuse si c'est pas toi, et que j'ai mélangé les noms, mais bref, il me semble. Et on veut essayer, les meufs, essayer d'aider les meufs qui démarrent et tout, je me dis, bah vas-y, je vais envoyer et tout, et donc pareil, je me souviens que tu m'avais donné des conseils, que vous m'aviez fait un article et tout sur la première vidéo qui était sortie, donc petit boost de démarrage ouais, qui m'a cool. carrément, bah ouais, non mais mission accomplie, franchement, regarde, trop cool.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vulgarisatrices, en fait,
il y avait Charlie.
Ouais, c'est ça, il y avait Charlie.
Et moi, je ne la connaissais même pas, je ne connaissais même pas sa chaîne à ce moment-là, je n'étais pas tombée dessus, tu vois.
Et il y avait pas, il y avait beaucoup de gens.
Il y avait
en fait.
Viviane, je pense, Syllabus, je pense.
Ah oui, c'est vrai. Déjà ah,
je pense
ouais.
qu'elle était là, ouais. Oui, je suis sûre parce que quand je suis arrivée, je les ai rencontrés en bloc, tous. Okay. Et ils étaient déjà en place depuis au moins un an, je pense, au okay. moins. Ou deux, peut-être, je sais plus. Il y avait Florence Porcel.
Oui.
Et Florence Porcel, qui elle était là dans les tout débuts d'ailleurs. Je pense qu'elle
vraiment, grave.
Elle était vraiment là, encore avant Florence, je pense. Et voilà, et c'est horrible parce qu'on doit en oublier, désolé pour elle. Mais du coup, en tout cas, moi, j'en connaissais aucune. Déjà, enfin, okay. je connaissais aucune chaîne de vulga tenue par une meuf. Non pas qu'elles n'existaient pas, mais en tout cas, j'étais pas tombée dessus. Mais j'étais pas méga connaisseuse de YouTube, hein, par ailleurs. Je connaissais vraiment que des énormes chaînes, tu vois. Et je me souviens que mon modèle dans lequel je me projetais le plus, c'était Natou. Ouais. Parce que elle avait ce truc que j'adorais, qui était de d'être une meuf et de pas avoir besoin d'être une princesse, tu vois.
Ouais.
Et de pas hésiter à sans les dire, à faire des grimaces et à être vraiment très drôle et à pas avoir peur de ça, et j'adorais ça, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu perdu ce truc, mais au début je faisais vachement des grimaces, des mimiques, des machins et tout, et je trouvais ça trop cool que elle s'en batte les steaks de à quoi elle ressemblait, puisque c'était pas le propos, sa chaîne, c'était une chaîne d'humour point barre, tu vois. Et je trouvais ça trop bien.
Tu fais un peu plus attention à ton image, t'as l'impression, maintenant, en vieillissant ou...
Alors, attention à mon image, je sais pas, mais c'est surtout que j'ai l'impression que j'ai un peu perdu ce petit grain de folie que j'avais au début. Tu vois, je sais plus trop, les gars. Non, c'est vrai que je fais plus des grains. Pourtant, j'aime bien, hein, c'est même pas... Non, mais en fait, c'est... Là, ça commence à aller mieux, mais j'ai été ces dernières années dans un tunnel de délai et de deadline qui fait que t'as plus le temps de t'appliquer, en fait. Mmh. T'as plus le temps de t'appliquer, t'as plus le temps d'incarner tes trucs.
Aussi,
exactement.
Ou... Okay.
Et en fait, il y a plein de trucs qui se perdent au passage comme ça. Mais même au début, tu vois, je commençais, genre, je cachais des easter eggs dans mes vidéos, des trucs comme ça, et je prenais du temps et beaucoup de plaisir à faire ça. Et là, j'ai des deadlines de malade qui font que, bon, faut vendre le script, on le dit, on le tourne, on le monte, et il y a, bah, ça perd en âme, clairement. Mais voilà, en tout cas, je travaille en ce moment à ménager.
C'est trop intéressant de te rendre compte, d'avoir réussi, bon, on en reparlera, mais d'avoir réussi à t'aménager de l'espace mental pour ça aussi, quoi.
J'y bosse pour retrouver
revenir
ça.
À ton.
Ouais. Carrément.
À ton sujet.
Carrément, carrément. Ouais, et puis au plaisir, tout simplement. Ouais, c'est plutôt important. C'est bien.
C'est
bien dans ton
plaisir. Vive le plaisir. Bonsoir.
Vive le plaisir.
Ok. Donc ouais, tu te lances là-dedans avec donc ton poteau réel.
Ouais, Bart, donc.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et tu...
C'est fait.
Et alors, comment ça se passe dans ta tête de... Ok, donc en fait, c'est des vidéos un peu pour la rigolade, tu vois, à peut-être il y a moyen que ça devienne mon métier, quoi.
Ça vient pas comme ça tout de suite, parce qu'en fait on fait des vidéos pour rigoler, voilà, et puis il y a des articles, donc il y a Mademoiselle, je crois qu'il y a eu Topito aussi, tu vois, donc trop cool. Bon, ça c'est bien, mais ça paye pas
les factures, hein.
Voilà. Et en fait, petit à petit, le premier truc, c'est que j'ai ouvert un Tipeee. En plus, à une époque où quand même on était un peu en mode, je sais pas trop, c'est chaud de demander de l'argent aux gens, tu sais, on avait encore un peu honte de faire ça, enfin en tout cas dans le milieu de la vulga. Alors que maintenant, vraiment, genre, c'est vraiment passé dans les usages. Bref, et donc je me souviens qu'on le justifiait énormément. C'est quand tu ouvrais un Tipeee, tu donnais plein de justifications de pourquoi tu faisais ça et tout. Bref, et donc d'abord, en fait, en gros, tout simplement, mon contrat doctoral, qui est donc le financement, il est arrivé à terme. Il dure toujours 3 ans et les tests d'histoire, on te demande de faire plus. Donc je savais que de toute façon, il couvrirait pas toute ma thèse. Et donc quand il a été terminé, je me suis dit bon il faut que j'ai d'autres financements, c'est hors de question que je retourne à l'école, même en mi-temps. Donc j'ai ouvert un Tipeee, et en même temps, parce qu'au début il a été relativement vite élevé par rapport à la taille de ma chaîne, mais évidemment ça suffisait pas pour vivre, et en même temps j'avais un mi-temps où je faisais des vidéos pour ma fac.
Ah, okay.
Donc ils avaient repéré que je faisais ça. Oui, c'est évidemment, c'est vite arrivé à leurs oreilles, mais trop bien, parce que du coup ils m'ont dit ah mais génial, tu vas nous faire des vidéos aussi, et comme ça on te prolonge un peu ton contrat, ton financement de thèse. Avec, il fallait un prétexte en gros, mais on te paye à faire ça, puis comme ça t'as des sous pour donc j'avais un mi-temps avec la fac pour leur faire des vidéos pour la chaîne Monde Sociaux, qui est une chaîne de vulgarisation des sciences humaines et sociales. Et donc les deux combinés, dans un premier temps, je fais ah bah nickel, là en fait je vis de mon activité de vidéaste, vu que je fais des vidéos pour la fac, pas directement de la chaîne uniquement, mais de l'activité de vidéaste, parce que en fait c'est en faisant des vidéos que je paye mes factures, là, clairement.
Ça, c'est classe,
donc
hein,
très cool, ouais, vraiment très très cool, très très cool. Ben en fait, tu sais, bon, c'est quand même un concours de facteur de chance aussi, tu vois, ça tombe là, ils auraient pu ne pas me le proposer, donc il aurait fallu que j'ai un job à côté, donc ça aurait pas été tout de suite des vidéos, peut-être ça aurait été jamais parce que ça m'aurait fatigué, enfin tu vois.
Y a mais c'était des... finalement ultra malin d'avoir fait un truc sur la ville de Toulouse. Alors c'était le but de la... le but de du concours, c'est ça, mais en fait c'était ultra malin d'aller chercher un truc ultra local parce que finalement ça t'a mis un zoom
pour émerger peut-être
local très
ouais,
rapide quoi.
C'est possible. Ouais.
Et puis en France on aime bien le côté régionaliste, tu vois, j'ai un peu l'impression qu'il y a ce truc là quoi.
Alors je sais pas si c'est malin dans le sens où c'est pas réfléchi, mais il se trouve que ça tombe, tu vois, c'est plutôt ça. Mais en tout cas le créneau a bien marché. Cela dit, c'était la première vidéo, puis après tout de suite on est passé sur autre chose, tu vois. Mais tain, par contre, je repense toujours au fait que si j'avais mis cette vidéo sur YouTube à ce moment-là au lieu de Vimeo, ça aurait été vraiment autre chose, ça aurait été probablement encore plus viral et j'aurais pu construire tout de suite une.
Peut-être avec le système de recommandations, etc. déjà à l'époque qui commence à exister.
Ah, bon, c'est pas grave, c'est, tout va bien maintenant, c'est pas comme si on galérait. Mais bref, et donc, mais oui, peut-être que ça a carrément contribué. Et puis voilà, et puis après ben petit à petit, comme je disais, donc je finis ma thèse, déjà fallait finir la thèse, c'était le truc, c'était hors de question de pas finir sachant que j'avais un financement et machin et tout, je voulais aller au bout et puis comme ça je me sentais plus légitime dans mon truc de vulga, enfin c'est pas que tu ne peux pas faire de vulga si tu n'as pas de diplôme, hein, attention, mais comme ça j'étais allée au bout de la démarche. Non mais j'insiste parce que il y a plein de vidéastes qui ont pas de diplôme et qui font très bon travail, c'est pas la question, tu vois. Mais comme ça, j'allais au bout du truc. Et en vrai, c'est un énorme plus sur ma carte de visite pour plein d'institutions avec qui je bosse. Et je le vois parce que j'ai des amis à taille de chaîne à peu près équivalente en vulga qui n'ont pas ça, ou même qui ont des chaînes plus grosses. Et ben, j'ai des trucs très stylés parce que je sais que les musées et les trucs comme ça, des fois, ils sont encore un peu frileux. Et que quand leur service com, ils disent « Non, mais regardez, elle a un doctorat, ça me fait passer devant certains, tu vois. » Donc, écoute, franchement, j'en ai chié pour faire ma thèse, et ben, tu sais quoi, ça paye. Voilà, donc je crache pas dessus. Ça veut pas du tout dire, encore une fois, que les autres, ils font pas du bon boulot, hein. C'est pas ça que je dis, mais juste, clairement, ça me fait passer devant pour certains trucs, je le vois.
T'as bossé hardcore pour utiliser
ouais.
T'en as chié pour.
Ouais, ouais. Oh, vraiment, j'étais. Non, mais franchement, c'était épuisant. Je faisais un vlog de thèse pendant la. Si ça vous intéresse, chers auditeurices, pendant la rédaction. Donc pendant la dernière année et demie, j'ai fait un vlog à peu près une fois par mois où j'expliquais en quoi ça consistait l'activité et ce que je faisais. Alors aujourd'hui j'ai écrit 3 pages et en fait je vais à la bibliothèque, mais comme ça on voit un peu à quoi ça ressemble le quotidien de
la déprime.
Bah c'est pas mal de déprime, on va pas se mentir. Mais bon franchement j'en suis bien sortie, hein. C'était ça va. Mais c'est cool ce format, il est pas si vu parce que c'est un truc un peu de niche en termes de qui peut être intéressé, mais par contre il y a toujours des étudiants régulièrement qui me disent oh là là je suis en train de mater ça alors que je fais mon master et ça m'aide trop, merci,
bien
et
sûr.
Ça fait hyper plaisir, tu vois,
c'est tellement tellement de partage quoi,
ouais, ouais, c'est et
partage
en plus,
d'expérience dingue quoi,
c'est ça. Et puis surtout j'hésitais pas à dire je pense que ça fait du bien de l'entendre, j'en chie quoi les gars, c'est dur, et là faut que je recommence tout, et là putain j'ai honte de ça, et là en fait je suis au fond du saut parce que nana, et ça fait du bien parce qu'en fait c'est ça la réalité de l'écriture, enfin le mythe des gens qui tu vois qui pour le truc, non c'est faux, tout le monde en chie, tout le monde galère, alors plus ou moins fort et avec plus ou moins voilà, mais je pense que ça fait du bien quand t'es au fond de ta rédaction de mémoire et que t'en peux plus de savoir que non seulement il y a une vie après tout ça, t'inquiète tu vas arriver au bout et surtout c'est normal t'inquiète, tout le monde galère même si on n'est pas tous égaux dans l'écriture et dans le travail, mais vraiment c'est normal que t'en chies, sache que t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Et je pense que ça a fait du bien de l'entendre.
Puis c'est un exercice de vulnérabilité aussi que tu n'avais pas forcément. Enfin, c'était pas forcément l'objectif
vlogs,
du reste de ta chaîne, quoi. Où tu es plutôt en mode je vais vous expliquer un truc, quoi.
C'est vrai. Carrément. C'était assez personnel. D'ailleurs, au début, je me disais putain, mais tout le monde va me tomber dessus en mode qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie et tout. mais en fait, non. Enfin, c'était moins regardé de fait, mais très bien. Les gens que ça intéresse pas, ils regardent pas, c'est parfait. Au lieu de venir mettre des commentaires d'orageux, ne regarde pas. C'est très bien. Et les gens qui sont intéressés et motivés et qui ça peut motiver, ils sont là et tant mieux. Et ça fait plaisir. Mais c'est un de ceux dont on parle le plus, alors qu'il n'est pas du tout le plus vu. Mais parce que juste les gens qui l'ont vu, par contre, ils ont été marqués. Ça fait plaisir.
Ça les aide tellement. Sur Mad, à l'époque, il y avait une meuf qui avait écrit comment faire pour avoir 20 à son bac de philo.
Ouais.
Et en gros, on le ressortait tous les ans, mais le truc avait 6-7 ans, quoi. Et en fait, tous les ans, les gens étaient là. Mais moi, c'est grâce à toi que j'ai compris comment. Ouais. Tu vois, j'ai compris comment faire pour faire une disserte, quoi.
Et
en fait, pour moi, c'est vraiment. C'est à ça que ça sert l'Internet, quoi.
Non mais grave.
Bah, on va vous expliquer. Voilà, c'est ça. On va vous expliquer comment on a fait ce truc qu'on a galéré à faire.
De ouf.
Ok.
Voilà. Je sais plus où on allait avec ça.
Bah voilà. Et en fait, je me demande un petit peu. Donc, tu te lances dans cette chaîne. Tu commences à lancer des formats avec des formats particuliers, donc autour des tableaux, etc. À quel moment, mais ça vient un peu plus tard, mais à quel moment tu te dis tiens, je voudrais me lancer dans le dessin animé. C'était il y a un an et demi, non?
Deux
ans.
Et ben alors, donc comme je disais, les premiers, c'est Cola qui m'a proposé. On en a fait deux ensemble au début. Alors attends, ça c'était quand? Je pense que c'était en 2018.
Ok.
Les deux avec Cola, je pense que c'était en 2018.
Qu'est-ce qui te donne envie de te dire tiens, en fait, je vais faire du dessin animé?
Mais c'est pas moi, c'est lui qui me
propose.
C'est
lui qui arrive.
C'est lui qui me dit « Hey, ça te dit, vas-y, on fait un petit épisode ensemble. » Donc je fais « Trop bien, c'est trop stylé l'anime et tout, Cola est super doué et tout, donc allons-y. » Et donc on en fait deux ensemble. Et après, c'est Lucie que je connais d'ailleurs par Cola et tout, qui m'a proposé et tout. Et on a fait un premier où elle a participé à mon émission Le Relooking Mythologique, où je présente une figure issue de la mythologie gréco-romaine et ses réappropriations. Donc là, Lucie, elle m'avait fait sur celui de Dionysos des animes. Et surtout, ensuite, on s'est lancé pour faire un épisode ensemble. Donc le premier qu'on a fait, c'est Comment devient-on cannibale? Enfin, un petit point sur le cannibalisme, sur l'histoire du cannibalisme. Et là, pof! Mais en fait, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il a marché à sa sortie. Plutôt bien par rapport à mes vidéos, mais pas non plus explosé. Et en fait, je sais pas pourquoi l'algo l'a rechopé, tu sais, mais un mois après, truc comme ça. Et un mois après, il se met à tourner, je sais pas pourquoi. Mais
les gens savent pas, hein, mais en gros, tu peux avoir parfois des vidéos de YouTube qui datent d'il y a quelques années que l'algo reprend en recommandation et qui explose comme ça sans aucune raison particulière, juste par le système de recommandation, quoi.
Totalement.
C'est ultra fort.
Mais celui-là, vraiment, assez longtemps. Non, j'exagère, attends, pas du tout un mois. Peut-être une semaine après, ou je sais pas. Enfin, mais bref. Genre, la courbe, elle s'emballe. Mais vraiment, elle s'emballe, tu vois, alors que j'y ai pas touché. Parce qu'à la limite, quand t'essayes de changer un titre ou la miniature, il reboot l'algo et il fait voyons, est-ce que ça marche? Et si ça marche un peu, enfin, tu sais, tu vois des petits pics et tout dans tes tests, ou des petits creux d'ailleurs, si t'as fait moins bien que ce qu'il y avait avant. Mais là, j'ai rien touché et je sais pas pourquoi. Une semaine après, ça s'emballe. Bon, bah, trop bien.
Tu fais beaucoup ça, des mises à jour de tu testes
des trucs? J'essaye, grave. Okay. J'essaye. En fait, j'ai vu une vidéo trop bien de Veritasium dessus. C'est Veritasium. Veritaserum. Oh putain, j'écorche son nom à chaque fois.
Pas.
Ça craint. Un vulgarisateur américain.
Ok.
Qui est un des tauliers de la vulga anglophone et qui était là il y a des années avant nous tous. Et en fait, il a fait une vidéo trop bien où il explique, donc c'est en anglais, mais c'est vraiment trop cool, où il explique la science de...
Veritasium,
merci.
Attends, j'ai 11 millions et demi d'abonnés, je connaissais même pas.
En vérité, j'en regarde pas beaucoup des vidéastes américains. Je sais plus pourquoi j'ai regardé ça, probablement parce qu'on m'en a parlé, je me suis dit tiens, je vais aller voir. Et en fait, il parle du putaclic ou non putaclic, de toute cette question où nous, en vulga, on a un truc, tu sais, on est trop noble pour s'abaisser à faire des titres vulgaires. Tu
Êtes docteur.
Oui, car nous sommes des gros cerveaux.
PhD.
Voilà. Non, mais t'as quand même un esprit élitiste un peu de merde, chevalier blanc. Non, mais on va pas se mentir, c'est ça quand même, tu vois, la vulga, genre, de la merde, tu vois. On va certainement pas faire les rigolos ou alors des titres putaclic parce que c'est rabaisser son contenu. Non, non, non. Bon, très bien. Et en fait, il dit, pendant un temps, je pensais comme ça et je fonctionnais comme ça et ma chaîne, elle marchait. Et puis, en fait, l'algo de YouTube, il a changé. Et pendant très longtemps, l'algo de YouTube, il montrait à tes abonnés tes vidéos. Si t'avais été abonné à une chaîne, bah l'algo il te montrait les nouvelles vidéos nanana. Et en fait YouTube il a fait ah c'est quand même vachement plus intéressant si je monte des vidéos qui te font rester sur YouTube quelle que soit la vidéo. Et donc l'algo il a changé et le but de YouTube c'est que tu restes là, mais c'est pas forcément en regardant des trucs auxquels tu t'es abonné, ça peut, mais si si c'est des vidéos, oui, tu sais, c'est des paramètres de, ils regardent si t'es resté longtemps sur la vidéo, ils regardent si t'es allé cliquer sur une autre vidéo après avoir maté ta vidéo. Et du coup, il va pousser ta vidéo parce qu'il sait que ça fait rester les gens, entre guillemets. C'est pour ça que, par exemple, les dramas où les gens se répondent, ça marche bien, parce que tu vas cliquer sur la vidéo de réponse et machin. Ouais, mais c'est, il y a aussi vraiment un truc d'algo, tu vois. Et donc, il va regarder évidemment si ça a beaucoup cliqué, mais si tu, si t'as cliqué et que tu t'es barré tout de suite, il se dit non, c'est mensonger. Enfin, tu vois, ça sert à rien d'être putaclic au sens, si tu mens sur le contenu, ça ne marche pas non plus. Mais bref. Et donc voilà. Et donc, il parle de ça, il dit en fait, l'algo, il a changé, et d'un coup, en fait, mes vues, elles s'effondrent parce que, c'est plus juste. Je peux pas juste me reposer sur les gens sont abonnés, donc ils vont venir regarder. Et en fait, je me rends compte à quel point mes titres étaient pas du tout engageants et que les gens vraiment ils venaient juste parce que ils aimaient beaucoup, mais aussi parce que l'algo leur mettait sous le nez. Mais que là, c'est plus le cas et qu'en fait, maintenant, on est mis tous en compète et il faut que j'attire des nouveaux gens et bidule. Bref. Et en fait, il dit ben, la moitié de ton job, c'est faire venir les gens sur ta vidéo. Donc, ton titre et ta miniature. C'est trop important et il faut que ça clique. Et donc, il dit, nous, on est... Il doit avoir une méga boîte et tout, mais il dit, j'ai carrément un groupe de gens qui réfléchissent à me faire des miniatures, des titres, et on teste régulièrement, et il monte ses courbes, et c'est ouf comment il y a des vidéos, d'un coup, après avoir changé le titre et le machin, paf, elles revivent, tu vois, elles redécollent et tout. Donc moi, j'essaye aussi, mais j'ai pas une équipe comme ça, et j'ai pas forcément les bonnes idées et tout.
Bientôt.
Ouais, j'aimerais bien. Ouais.
Dans l'empire de Manon Bril.
Community managers qui sachent mieux faire ça que moi, mais en vrai c'est trop important si t'as fait la
pour meilleure... l'instant tu fais tout toute seule, c'est ce que
sur ça sur ça ouais, les posts et tout, et en vrai ça prend du temps et c'est vraiment un boulot, donc de community manager j'aimerais bien prendre quelqu'un qui fait ça, j'y réfléchis. Mais du coup c'est un boulot aussi de refaire, tu sais, flemme, tu vois, de rechercher une idée, rechercher une miniature. C'est quoi la balance entre là c'est très très clickbait mais c'est mensonger, ça va saouler les gens et ça sert à rien. Enfin bref, lui il parle de tout ça, tu vois, il dit il faut un titre honnête évidemment, mais quand même accrocheur, et donc il te fait réfléchir à une phrase laissée en suspens ou une question que tu poses, et enfin tu vois, il réfléchit à ces trucs là c'est hyper intéressant. Et il dit vraiment mais c'est très bien si t'as fait la meilleure vidéo du monde mais que personne n'est venu la voir, t'as pas fait ton job de vulgarisateur en fait. Et il faut arrêter de faire oui ben non on va pas avilir le je vais mettre le titre du théorème de mathématiques dont je parle, non tu vois, tu fais un titre où on comprend pourquoi c'est important d'aller mater cette vidéo ou pourquoi t'as trop envie d'y aller ou machin, bref. Et donc ça c'est un job, et il y a encore du classisme sur ça parce que je vais pas mettre ça, hein. Mais moi je m'en fous un peu, je veux que les gens y viennent, je veux pas non plus leur mentir parce que sinon encore une fois ça sert à rien, ils sont déçus, ils sont énervés, c'est pas ça le truc, mais il faut réfléchir à comment on les fait venir aussi. Donc j'essaye régulièrement de changer les trucs, je reposte aussi les anciennes vidéos, ça les rebooste un peu dans l'onglet communauté avec les nouveaux titres ou pas, pour voir si les gens qui étaient passés à côté, ils tombent dessus ou non, à d'autres heures, tu vois, je fais des tests.
Okay.
Franchement, j'essaye de jouer avec parce qu'en vrai, c'est quand même, ça fait quand même une bonne partie du taf. Et juste la viralité de ta vidéo, ça marche que quand vraiment la vidéo... Enfin, tu vois, genre les méga partages, ça marche que quand vraiment les gens, ça leur a explosé le cerveau, tu vois. Genre, moi, la dernière où ça a fait ça, c'est Picasso. Où ça dénonce, grâce au podcast Vénus et Pilatel la chatte, ça dénonce le connard qui était Picasso, et là elle a été énormément partagée parce que tout le monde a fait what, mais je savais pas, mais t'as vu ça, tu l'as vu, non. Mais sinon, même si t'as fait une vidéo trop bien, les gens ils ont kiffé mais ils ont pas forcément le besoin de le partager, tu vois, de le montrer aux autres et de bidule. Donc en vrai il faut que tu les attires, il faut que tu les aspires avec ton titre et ta miniature de base, quoi. Tu peux pas te reposer sur les partages, et l'algo il a changé, et d'ailleurs il change tout le temps, mais voilà. Bref, donc oui, je régulièrement j'essaye d'autres trucs et tout.
Ce qui est trop intéressant, c'est que tu t'es aussi... Il n'y a pas beaucoup, je vais jusqu'au bout, mais il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui sont mis comme tu t'es mise sur TikTok.
Ouais, ça arrive, ça commence. Parce que je leur ai dit, en mal, j'aurais dit, c'est trop bien, venez.
Je te jure.
Ah ouais, grave, je l'ai vraiment dit
parce
à plein de potes.
Tellement un format différent de ce que tu as l'habitude de faire. Ouais. Et mais je me suis dit, putain, Manon, en fait, elle a compris le truc. Et surtout, pour moi, il y a un côté un peu... Je trouve qu'il y a un côté un peu... T'as gardé la curiosité, tu vois, plutôt que de te dire, bon, bah, moi, je suis sur YouTube, alors je vais faire YouTube. Et puis, parce qu'en fait, ma chaîne est sur YouTube et tous mes abonnés sont sur YouTube. D'un coup d'un seul, tu t'es dit, putain, mais en fait, là, il y a... En plus, tu parles d'histoire, donc t'es en plein dans... Ça peut intéresser les lycéens. Enfin, tu vois, t'es dedans, quoi.
Ben, en fait, je suis très contente de cette expérience TikTok, figure-toi, parce que au début, alors, il y avait quand même quelques personnes qui étaient là. Il y avait Nota Bene, d'ailleurs, parce que Ben, il est toujours en avant sur tout le monde et tout. Il flaire les trucs de ouf, tu vois. Donc, Ben, il avait sa chaîne, il a toujours sa chaîne. Il y en avait quelques-uns qui étaient là. Il y a eu deux trucs. D'abord, il y a un créatif dans un live qu'on avait fait ensemble qui m'a lancé le challenge de faire un TikTok de vulgarisation.
Ah, yes.
Mais à un moment, il n'y en avait pas du tout. C'était confinement ou juste après le premier confinement, genre mars ou enfin genre avril ou mai 2020, tu vois, un truc comme ça. Donc à ce moment-là, j'avais même pas l'appli, tu vois. Je savais péniblement ce que c'était un TikTok. Donc
rappelons, t'as 30.
J'ai 34 ans.
Voilà, t'es pas censé être.
Non, j'étais pas la cible. Bah, maintenant, je pense que ça se démocratise, mais là, j'étais pas la cible. Ouais. Et d'ailleurs, il est trop gênant, le TikTok que j'ai fait. En vrai, comme on a parlé de la fessée, donc en plus, il a été striké parce que tu sais, ils sont au taquet sur TikTok, la censure. Bon, bref. Et j'avais pas les codes et tout. Bref, j'ai fait un truc un peu nulos, mais c'est pas grave. Ça m'a fait télécharger l'appli et regarder ce qu'il y avait dessus déjà. Premier truc. Et ensuite, bon, je vois qu'il y a quelques copains, mais pas grand monde. J'ai essayé de faire des petites vidéos marrantes parce que comme tu vois que des vidéos marrantes, t'as envie de le faire aussi. Ça ne marche pas du tout. C'est ridicule. C'est vraiment la boumeuse qui essaye de faire les trucs comme les jeunes. C'est ridicule. Très bien. Non, mais tu sais, voilà, tu testes. Hein, t'as envie de t'amuser, toi aussi. Hein, t'as envie de le faire.
Tu te rends compte à quel point on est vite des boomers aujourd'hui? C'est-à-dire que t'as 34 balais et t'es déjà en train de te dire, putain, mais merde, je suis une boumeuse.
Bah, sur cette appli-là, ouais.
J'ai vu un article du Monde qui disait, ça y est, en fait, si tu utilises un GIF sur Internet, ça y est, en fait, t'es boomer, quoi.
T'es un vieux, ouais, moi j'ai l'impression que ça fait un peu vieux.
Ouais, c'est trop tard. C'est dead.
Mais en fait, c'est pas que t'es un boomer, c'est juste que tu parles aux gens de ton âge, c'est tout. Il n'y a pas de... Et entre gens de notre âge, on se comprend, c'est comme les vrais boomers au sens générationnel, c'est-à-dire les 60-70, ils mettent énormément d'emojis, où tu vois dans
souvent pleurs de rire.
Ouais, voilà. Et donc, et ben, toi, ça te fait... Moi, trentenaire, ça me fait vraiment un effet de « oh là là, la vieille personne qui m'écrit ». Et en même temps, eux, entre eux, ils se parlent comme ça, c'est leur code de... Ouais. Voilà, c'est tout, c'est juste, t'as un langage comme à l'oral... C'est ou à l'écrit, t'as juste un langage approprié à ton âge et à ta génération sur une plateforme, tu vois.
C'est
donc
vrai.
Tu vois juste, ça transparaît l'âge, mais comme quand on va se parler en vrai, ton âge y transparaît aussi, tu vois. Enfin, bref, donc, ouais, je sais pas, c'est juste... Mais bon, par contre, ce qu'il y a, c'est là où c'est gênant, c'est quand tu veux faire jeune et que, bon, ben non, tu vois. Donc dans un premier temps, j'ai fait ces trucs gênants là. Et ensuite, je pense qu'ils y sont encore si tu scrolles au tout début de ma page, allez vous délecter de ça. Et ensuite, je me suis dit au deuxième confinement en novembre 2020, j'ai fait tiens vas-y et tout, je vais essayer de me lancer parce qu'en scrollant par contre j'étais tombée dans le TikTok anglophone sur des vulgarisateurs anglophones. Et j'ai fait ah ouais mais attends mais ce mec il parle d'histoire de l'art et tout et elle parle de ça et machin, trop bien tu vois. Et juste en fait c'est tout simple et ils ont pas besoin d'en faire des caisses, c'est eux qui parlent et t'expliques un truc, en fait ils font masse de vues, peut-être que ça peut intéresser tu vois. Donc je me lance et je fais le truc avec le fond vert, là je mets un tableau derrière moi, je raconte le tableau, fin d'histoire. Et en fait le premier TikTok, le premier vrai TikTok entre guillemets on va dire, il explose tu vois, et je suis plus à 300 000 vues et tout, je fais oh trop bien. Et puis en plus là, c'est les abonnements hyper vite, et comme c'était super différent de ce qu'il y avait en français, en tout cas il y en avait vraiment pas beaucoup, bah en plus c'est frais, c'est nouveau. Et là j'ai pris mes shoots de dopamine, donc pendant 3 mois j'en ai fait un par jour. Donc attention, il faisait pas 300 000 vues à chaque fois hein, évidemment. Donc là tu vois, par contre c'est intéressant TikTok parce que tu vois vraiment l'algorithme, il est palpable tu vois, vraiment genre
oui tu le comprends plus là, que YouTube quoi.
Bah oui et non, mais en tout cas tu vois à quel point vraiment il y a de l'injustice avec ça. Et moi du coup, pour en avoir fait un par jour pendant longtemps pour des vidéos vraiment extrêmement proches, suivant l'heure, et même apparemment, à ce que j'ai compris, t'es en concurrence avec les autres vidéos qui sont en même temps. Et l'algo, je sais pas si c'est vrai, hein, mais on m'a dit, l'algo, il compare, mais mettons, t'as 10 vidéos qui sortent en même temps, elles sont en concurrence, il regarde laquelle est la plus likée ou la plus matée en entier, et il la pousse et les autres pas, tu vois. Donc en fait, ça dépend aussi de qui sort en même temps que toi, mais c'est, enfin, en soi, c'est logique. Genre, même pour le temps d'attention de tout le monde, comme sur YouTube, tu me diras, tu vois, s'il y a deux gros trucs en même temps qui sortent, tu vas cliquer sur un, peut-être pas sur les deux, bref. Et donc voilà, donc en tout cas, là, vraiment, tu vois l'algorithme à l'œuvre, parce que sur des vidéos équivalentes, j'en ai qui font 200 000 vues et d'autres 2000, tu vois. Et pendant un temps, pendant un mois, tu sais pas pourquoi, tu plafonnes à 5000 vues, et ensuite c'est reparti, tu fais des dizaines de milliers de vues, enfin vraiment, c'est très bizarre. Mais bref, au moins, ça m'a permis de me rendre compte que non, il n'y a pas que du mérite, il y a aussi de l'algo, tu vois. Enfin, je pense que si c'est nul, nul, ça peut pas marcher, comme mes tout premiers qui étaient ridicules. Mais là, quand même, tu le vois à l'œuvre, vraiment, bref. Mais tout comme, du coup, si tu publies et que t'es régulier, les gens y suivent et ça fonctionne, tu vois. En plus, là, il y a de la place. Bon, ça commence à être vite bouché, mais il y a de la place. Donc, je me suis faufilée dans ce créneau tant qu'il était là. Je me suis bien épuisée. Je pense que ça a contribué à mon assèchement créatif, d'ailleurs, parce qu'il fallait trouver une mini idée tous les jours. Et même si c'est une anecdote de rien du tout, expliquer un tableau, une petite idée tous les jours, puis en fait, la tournée, puis l'appli elle plante, il faut recommencer, et nanana, et enfin bref.
Ah, parce que tu tournais sur l'appli, tu tournais pas.
Ouais,
okay.
Ouais, sur l'appli directement et tout.
C'était pas mis. Tu sais, Jérôme racontait
InShot
que lui,
et tout.
Il fait des montages, quoi.
Ouais, non.
Il monte sur son téléphone, mais pas dans l'appli, quoi.
J'en ai une maintenant. Okay. J'en ai une, mais quand même, elle me fait pas le fond vert, donc je tourne quand même. Sur, d'ailleurs, maintenant sur Insta, j'utilise d'Insta, mais bref, que je reposte après ailleurs. On s'en fiche. Mais donc, ça, à la fois, ça marchait, c'était grisant, et en même temps, c'était épuisant. Donc après, j'ai ralenti le rythme, et maintenant, j'en fais un par semaine. Et des fois, il y a une semaine où il n'y en a pas eu, parce que j'ai pas le temps, et c'est la vie, tu vois. Mais bref. Et en fait, mais en même temps, c'est cool, parce que ça me permettait de mettre toutes les petites idées, tu sais, qui ne tiennent pas en une vidéo non plus. J'aime bien pour ça. Maintenant, je fais aussi les shorts sur YouTube.
Parce
comme
que
ça, je les mets
YouTube a sorti un équivalent.
Ouais. Donc, je les mets là aussi. Les gens n'aiment pas le format short, mais moi, je suis convaincue qu'ils vont s'habituer. Et en fait, tant pis, parce que moi, j'aime bien. Donc, c'est tout ce qui compte. Donc, je le fais. Bah ouais.
Et surtout,
vrai,
ça te permet de recycler.
Oui, voilà. Et
tu recycles
en plus,
sur Instagram.
Ouais, voilà, je les mets partout. Et comme ça, ils sont partout. Parce que, en fait, les gens, ils n'aiment pas. Pas les gens, ils n'aiment pas. Mais il y a des gens qui râlent. Mais au début, quand je disais aussi que je faisais des TikTok, il y a les gens qui râlaient en disant mais moi, j'ai pas TikTok. Donc, maintenant. Ceux qui râlent parce qu'ils n'ont pas TikTok, bah, ils peuvent les voir sur YouTube. Ceux qui ne sont pas contents parce que ce n'est pas ça YouTube, bah, ils s'en vont. Et puis, basta, qu'est-ce que tu veux ? Non, mais au bout d'un moment, voilà. Quoi.
C'est dur, mais c'est dur de satisfaire tout le monde.
Non, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Donc,
mais tu dis ça comme si, jour 1, tu t'es dit, OK, je n'arriverai pas à satisfaire tout le monde ou ça a été un cheminement
pour
toi ?
Non, c'est régulièrement, je fais, oh non, ils n'ont pas aimé. non, mais tout le temps, enfin, bien sûr. Mais juste, en fait, c'est impossible. S'il y a bien un truc que tu apprends avec Internet, c'est que tu te mets à entendre énormément de voix que tu n'aurais pas entendues d'habitude. Tu te rends compte à quel point, quand tu fais un truc, ça plaira toujours à certains et pas à d'autres. Et si tu changes ce truc-là, ceux qui aimaient, ils vont râler que tu le fasses plus et les autres, ils vont être contents que tu changes tout le temps.
Et donc comment tu fais ?
Le premier truc, c'est faut toi que t'aimes. Ça, c'est le premier truc. C'est pas con, mais voilà. Et ensuite, je pense qu'il faut essayer de regarder les grosses tendances. Je pense qu'on doit pas non plus ne pas du tout ni prendre en compte les commentaires, ni les stats et tout, mais pas individuellement, un par un, quand il y a juste... Jean-Jacques qui râle dans les commentaires parce que lui ça lui plaît pas les TikTok et qu'il aurait préféré une vidéo plus longue alors que t'es là mais gros c'est juste une vidéo en plus gratos que t'as pas payé et si tu veux pas tu la regardes pas c'est pas grave, enfin c'est bon bref. Non mais tu sais genre ça me rend ouf de râler parce qu'il y a du contenu gratuit quand même, enfin tu vois, bon bref, mais passons. Mais par contre ce qu'il faut regarder c'est les grandes tendances et se dire ok, là, par exemple, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que justement sur les placements de produits, on en parlait tout à l'heure, là, j'ai besoin des placements de produits pour faire tourner mon équipe. Je peux pas faire autrement. Le CNC, ça couvre pas tout. De toute façon, quand tu reçois le CNC, tu te dois d'apporter 50% de ta poche, entre guillemets. Enfin,
expliquons rapidement, mais en gros, le CNC a un fonds qui te permet, qui permet aujourd'hui, donc le Centre National de la Cinématographie, qui finance le ciné, le vrai cinéma dans les salles. Ils ont lancé il y a quelques années maintenant, je ne sais plus combien de temps.
2017,
mais,
je crois.
Voilà, un fonds qui permet de financer des vidéos sur le YouTube.
Ouais,
et sur
Internet en général.
Voilà.
Et donc, trop bien, donc des subventions. Ni plus ni moins.
Voilà.
Donc déjà, c'est trop cool que ça existe. Donc quand on les a, on est trop content. Mais la loi dit que tu n'as pas le droit de financer plus de 50% de tes projets, et ça vaut pour le ciné et tout, avec les aides publiques. Donc ça veut dire que si le CNC te donne 20 000 euros, tu dois de ton côté apporter 20 000 euros aussi. Donc à un moment donné, voilà, y a pas, ça tombe pas de
Il faut aller
ciel.
Chercher
Donc, il faut
la
aller chercher
thune des annonceurs.
Des sous privés, ça peut être ton Tipeee, mais moi mon Tipeee il couvre pas ces montants-là, il n'est pas assez élevé pour ça. Donc il y a des placements.
On pourrait dire aux gens. Non mais en fait, je trouve qu'il y a un vrai truc aussi qu'il faut, il faut éduquer les gens à venir dire, comme tu dis tout à l'heure, ok c'est du contenu gratuit, mais en fait il est temps de se rendre compte aussi qu'il y a des gens qui travaillent derrière qu'en fait n'hésitez pas à mettre des sous dans les créateurs que vous aimez.
Ou alors accepter d'encaisser la pub surtout.
Exactement.
Tout le monde peut pas donner, je comprends bien, tu vois, c'est normal. Mais dans ce cas il y a une pub. Et en plus il y a une pub, est-ce que vous voyez pas, enfin ce qu'il faut pas oublier c'est que vous voyez que les placements de produits qu'on accepte et vous voyez pas aussi tout ce qu'on refuse, parce que forcément les gens c'est ah là là ils s'en mettent plein les poches et tout, non juste vraiment je te jure, actuellement un épisode animé ça coûte 8000 balles à faire, tu vois, donc vraiment c'est pas avec je sais plus, alors par exemple on a eu le CNC qui fait 50 000 euros et on s'est engagé à faire 12 vidéos avec ça. Donc tu vois le calcul est vite fait, ça coûte pas du tout, ça couvre pas du tout tous nos coûts de production. Ça coûte 8000 balles donc en masse salariale à faire et tout, tu vois, en incluant ma rémunération pour mon travail dedans aussi. Bref, donc voilà, c'est comme ça que ça marche en fait, et on a besoin de fonds. Et donc ce que j'allais dire par rapport à ce truc d'écouter les tendances et tout, c'est que néanmoins il faut quand même regarder ce que les chiffres, plutôt la masse des chiffres dit, j'essaye de faire ça en tout cas. Et donc, par exemple, ces derniers mois, j'ai constaté une baisse des abonnements vraiment forte par rapport à ce qu'on a eu, mais même 6 mois auparavant, tu vois, genre divisé par 2. Or, il se trouve qu'on s'est mis à faire beaucoup de placements de produits sur les épisodes animés. Parce que, encore une fois, on a besoin de ça et tout. Et en fait, si je regarde les stats plus en détail des vidéos, je vois que les gens, ils s'abonnent plus sur les épisodes animés qui sont sponsorisés, ou beaucoup, beaucoup moins, voire... Enfin, la balance, elle est vraiment... Alors que d'habitude, les épisodes animés, ça génère beaucoup d'abonnements. Donc, je fais, ok, vraiment, ça saoule les gens, les placements de produits. Et ils ont pas compris ce truc de j'ai pas le choix et machin. Donc, je peux juste dire, avoir mon discours de oui, bah c'est comme ça, on n'a pas le choix, blablabla, ou et pas vouloir et en faire qu'à ma tête, ou alors je peux essayer de réfléchir autrement. Donc, du coup, j'ai commencé à dire, bon, ok, il faut que je mette des placements de produits, mais pas sur les épisodes animés, parce que les gens, ils supportent pas, et je comprends, parce qu'en gros, sur 3 minutes d'animation, te taper 1 minute de pub, le ratio est mauvais, tu vois. Et vraiment, c'est énervant, malgré toi, c'est énervant, et même si t'as toute la bienveillance que tu veux et tout. Donc, tu vois, je réfléchis à ces trucs-là, je me dis, ok, je vais mettre des placements de produits sur les vidéos classiques, parce que elles durent 20 minutes et que ça va d'avoir 1 minute de pub sur 20 minutes, c'est beaucoup plus digeste. Je vais justement, j'essaye de développer un max mes comptes TikTok et Insta pour faire des partenariats là-dessus, pour enlever des pubs sur YouTube. Mais par contre, il n'y a pas de secret, ça, c'est des placements de produits, j'ai pas trop le choix, tu vois, à un moment donné, comme on disait, l'argent, il est là. Mais bref, donc j'essaye de privilégier les placements sur ces plateformes-là pour en mettre moins sur YouTube. De temps en temps, il peut y avoir quand même un épisode animé sponsor parce qu'on n'a pas le choix. Et parce qu'en plus, comme ils font plus de vues, nous, on peut les vendre plus cher aussi. Bien tu sûr. Vois, c'est ça le truc. Mais bref, donc toute une balance de coût-bénéfice. Parce qu'en vrai, emmagasiner de l'argent, c'est bien pour payer l'équipe. Mais si ça plombe la chaîne, c'est pas une bonne stratégie non plus. Donc tu vois, faut... Enfin bref, c'est plein de calculs.
Tu crois pas qu'il manque... un format comme tu pouvais faire les vlogs, tu vois, pour expliquer un petit peu.
En fait, je le fais souvent.
Décrypter un petit peu.
Je le fais souvent, mais les gens qui voient les épisodes animés, ils voient pas ça. Enfin, les épisodes animés sont beaucoup plus vus, et ceux qui râlent et qui nana, qui sont là pour les 3 minutes de l'épisode animé, et même dans l'épisode animé, je le glisse quand il y a un sponsor. Ouais. Je fais ah oui, dis donc, oh, comment ça, un placement de produit ? Eh oui, figure-toi que les gens qui travaillent avec moi, j'ai fait dire ça au personnage un coup là, qui travaillent avec moi, ils veulent pas le faire gratuitement, c'est dingue. Ben, même en disant ça, t'as quand même des gens pour dire ben avant, tu faisais pas le placement de produit, alors qu'est-ce qui se passe ? C'était là, ben ouais, parce qu'en fait, j'ai mis beaucoup d'argent perso déjà qui a disparu, et en fait, c'est pas viable, et donc j'ai niqué toutes mes économies, c'est ça la vérité, tu vois, bon bref. Donc,
t'as pas expliqué ça?
Non, parce que c'est un peu ouin-ouin. Et du coup,
c'est pas ouin-ouin.
Je sais pas.
En fait, pour moi, quand tu me l'expliques comme ça, c'est pas ouin-ouin. C'est plutôt ah ouais, ok, voilà ma situation. Quoi. Je comprends que tu puisses te dire les gens vont le voir comme ouin-ouin, mais pour moi, c'est plutôt bah, voilà où j'en suis. Quoi.
Oui, totalement. Mais je suis pas sûre que ce petit groupe-là, ça les convainc. Du coup, ceux qu'on avait déjà pas convaincus. Bref.
Oui, je comprends.
Donc, j'essaye de réfléchir stratégie aussi. Et je me dis, ok, on essaie, il y aura de la pub, c'est obligé. Déjà, je trie énormément. Donc, les trucs où je le sens pas du tout, j'y vais pas. J'ai vendu des trucs qui me paraissaient ok jusque-là, en tout cas. Et surtout, j'essaye de le faire sur d'autres réseaux. Et en plus, c'est trop bien sur Insta et TikTok. Et c'est pour ça aussi, pour conclure, que je suis trop contente de cette expérience TikTok. Parce que j'ai fait plein de contrats pour des musées, pour des expos de musées, donc rémunérés. Mais là, mon placement de produit, c'est de la culture. Donc trop stylé, tu vois. Je suis payée pour faire la promo de l'expo du Louvre. Je suis payée pour ça sur ces réseaux-là, en leur faisant justement soit en animant un live sur TikTok sur leur compte à eux, soit en leur faisant un petit TikTok de présentation et tout. Donc là, franchement, mais banco total pour moi. Un bonheur de faire ça. Trop fière de travailler avec eux, tu vois, parce que c'est des gros musées. Ça m'évite, ça me diminue un peu les pubs sur les autres épisodes. Et c'est pour vendre de la culture, donc trop, trop bien. Mais bon, c'est des calculs longs qui prennent du temps et Internet, ça bouge beaucoup plus vite. Et toi, t'es là, ok, nous, on prépare l'épisode pendant 2 mois, mais peut-être que celui de ce mois-ci qui sort, il va nous faire voir ça autrement. Enfin, tu sais, bref, on peut pas être hyper... rapide non plus, mais bon bref, en tout cas on réfléchit à ça et surtout maintenant on est plusieurs cerveaux pour réfléchir à ça et ça me fait du bien.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que t'es vraiment en train de te structurer aussi pour plus être dans ta chambre, enfin le cliché
de
la youtubeuse dans sa chambre,
c'est fini, c'est trop bien seule, quoi. Carrément, parce que maintenant ce qui a énormément changé ma life, c'est d'avoir une agente. Depuis mai, avec Nawel, que j'embrasse, on a commencé à bosser ensemble.
Coucou Nawel.
Coucou Nawel, que tu connais aussi.
Oui, je connais bien, on travaille ensemble.
Et oui. Et donc, un bonheur fou parce que, ton agent, c'est celui qui négocie avec les clients pour toi, ça coûte tant d'avoir un passage publicitaire dans notre émission ou sur nos réseaux. Et qui dit aussi, non, ça on le dira pas, ou alors non, ça dure trop longtemps, ok, à cette date, mais pas à cette date. Enfin, voilà, quoi. Donc, elle connaît mon emploi du temps et tout ça. Et elle gère tout ça. Donc, c'est un gain de temps.
Tu m'étonnes.
De malade sur mon emploi du temps. Parce que le nombre de mails où tu discutes avec un client pour dire « Non, ça coûte ça. » Et ils disent « Ouais, mais nous, on n'a que temps. » Et c'est long et je déteste faire ça. Et en plus, je me sous-vendais. Je me suis rendu compte. Et je pensais pas être débutante. Mais en fait, elle a doublé mes prix, tu vois, genre en me disant non, mais c'est ça que ça vaut, en fait. Et en fait, quand je fais le bilan de...
Connais-tu ce podcast Histoire d'argent?
j'ai hâte de découvrir, comme on parlait tout à l'heure. Mais en fait, elle m'a permis aussi de me rendre compte de ça, de me dire, attends, mais si tu chiffres là combien tu payes machin pour faire ta vidéo, bah ta vidéo, en fait, ça coûte 10 000 euros à faire, en fait. Tu vois, donc non, tu peux pas dire oui, c'est ok ce placement de produit à 2000 euros. Enfin, non pas que le placement de produit ait à financer toute la vidéo, mais quand c'est une vidéo dédiée, par exemple, bah en fait, non, c'est pas normal que ça coûte si peu. Donc, soit tu le fais parce que des fois j'en prends quand même parce que je surkiffe le sujet, ouais, donc j'ai envie de le faire et voilà.
Tu peux choisir de baisser tes prix.
Absolument, et c'est important. Et d'ailleurs, pour les institutions culturelles, bah, c'est souvent quand même le cas, ils ont pas cet argent-là. Donc là, je le prends parce que c'est trop bien, c'est trop intéressant et machin. Mais bref. Mais ça te permet de te rendre compte de ça aussi, de chiffrer ces trucs-là. Donc premier changement de vie cet été, du coup il y a d'un coup beaucoup plus d'argent qui rentre dans la boîte et moi je respire enfin, parce qu'en gros là je vivais en mode on était tous payés et tout ça va, mais j'étais toujours dans le stress de justement est-ce qu'on va renouveler le CNC. En gros, si on renouvelait pas le CNC, donc ces subventions qu'on doit demander tous les ans ou tous les 6 mois, tu vois, ça dépend de ton projet. Si je l'obtenais pas, parce qu'en fait c'est normal. Enfin, peut-être mon dossier il va pas passer parce qu'ils ont qu'une bourse limitée à donner. Et puis il y a d'autres créateurs qui la méritent aussi. Puis ils essayent de faire tourner, tu vois. Donc voilà. Et en gros, je disais, si je l'ai pas, les dessins animés, ils n'existent plus, quoi. Ou on fait une pause jusqu'à ce qu'on décroche le prochain dossier parce qu'on peut pas, financer ça. Ça coûte beaucoup trop cher. J'ai pas cet argent-là. Et en fait, maintenant, je me dis, bon, grâce au sous que ça génère, je suis tranquille pour jusqu'à la session d'après, tu vois. Genre, on a une marge, on peut continuer à produire l'émission. Et c'est bien plus apaisant d'esprit, tu vois. Je suis pas là à me dire, oh là là, j'espère que ça va passer, sinon ça va pas se passer, foutu et tout.
Tu pourrais pas limite les crowdfunder?
On réfléchit avec Nawel à des trucs. Moi, je réfléchis au. Les crowdfunder, je sais pas, dans le sens où j'ai, tu vois, genre un Kickstarter pur. Moi, j'ai déjà un Tipeee, machin et tout, tu vois, qui finance la chaîne. Donc, du coup, ce serait encore.
C'est pas vraiment pareil.
Bah ouais, mais ça, le Tipeee, il finance déjà ça, tu vois. Donc ils vont me dire, bah quoi, enfin, je sais pas comment. Enfin, oui, c'est pas. Non, mais c'est pas pareil dans le sens où tu fais une campagne et tout. Je comprends, mais j'y ai pensé. En fait, c'était ça que je me disais si j'avais pas le CNC. On doit faire un Kickstarter, mais ça met du temps à
mettre en place.
Il faut le monter au plat. Bref, donc il y avait ça, mais pourquoi pas. Je réfléchis au truc des NFT en ce moment.
Ah ouais?
Ouais, ben en fait, je sais pas trop, mais je sais que Utip, ils ont démarré un truc où tu peux proposer des NFT.
Donc Utip, c'est une boîte où tu peux tipper.
Tu peux faire des dons, voilà, comme sur Tipeee. Sorry, je dis Tipeee depuis tout à l'heure, mais j'ai commencé avec un Tipeee, mais maintenant on n'est plus sur Utip. Enfin bref, il y a les deux. Donc comme Patreon, comme tout ça. Donc moi, j'ai un Utip et un Tipeee. Et sur Utip, ils ont lancé un service où tu peux proposer des NFT qui est, en gros, ça serait une autre façon de faire des dons parce que. Tes NFT, je pense pas qu'ils aient masse de valeur. Mais bref, je crois qu'il y a un système de vente aux enchères quand même. Et donc, tu pourrais proposer des NFT. En gros, ça reviendrait à dire aux gens, vous êtes encore en train de faire un don, mais vous avez une petite contrepartie avec,
okay.
Qui est la possession d'un objet numérique. Donc. Et donc, je réfléchis à ça en me disant, peut-être que on pourrait dire, vous êtes propriétaire d'une partie de la vidéo. Je sais pas si c'est possible de faire ça. Ou alors... on vend les. Je me disais peut-être faire des NFT avec les miniatures des vidéos. Et y a des gens qui pourraient dire je possède la miniature de cet épisode. Je réfléchis à ça. Je sais pas si ça plairait, mais j'ai l'impression qu'il commence à y avoir un public pour ça. Donc je me dis voilà. Après, j'ai toujours un peu la trouille parce que du coup, je sais pas si ça fait de la spéculation et des trucs de droite que je comprends pas. Voilà, j'ai peur de ça. Mais le côté vous donnez, vous avez une contrepartie, je trouve ça cool. Peut-être ça fera plaisir à des gens, j'ai l'impression que ça... Bon bref, voilà, donc on réfléchit, okay. Tu vois, tout le temps à des trucs comme ça. On réfléchit au dessin animé, là, est-ce qu'on le proposerait pas à un diffuseur aussi? Mais là, je suis un peu plus stressée parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va mettre la patte dans ton bébé, qui va exiger des formats très précis, des machins et tout. Mais après tout, why not, si c'était un peu de tranquillité de financement. Ou alors un diffuseur qui donnerait pas tant d'argent que ça, mais nous, ça nous ferait un gros plus, mais on serait assez libre, par exemple, tu vois, on pourrait avoir des compromis comme ça. Bon, on réfléchit à ça. Donc, c'est plein de pistes, tu vois, qu'on explore, mais donc, on est plusieurs cerveaux sur ça. Donc, il y a ça. Et donc, comme il y a eu plein d'argent, beaucoup plus d'argent, attention, beaucoup plus d'argent qui est rentré, non seulement on a méga agrandi l'équipe d'animation, donc c'est trop bien parce que Lucie, elle faisait toute seule au début, toute l'anime, et là, elle était épuisée. Donc, maintenant, elles sont pleines, les meufs, big up à elles. Et j'ai pu prendre une responsable administration, budget, production, nanana, qui est Marie, donc, Marie-Camille, et qui m'aide à tout bien cleaner les comptes de l'entreprise bien carrés comme il faut, toutes nos. Enfin, tu vois, tout bien mettre en place les dispositifs pour avoir la visie budget qu'il nous faut pour qu'on puisse dire. Ok, là, on a tant d'argent, on peut se lancer dans ce projet-là. Par exemple, moi, notamment, je rêve d'allonger la durée des épisodes animés.
Okay.
Qui font, pour l'instant, il n'y a que 3 minutes d'animation pure, même si, allez, abonne-toi à la fin et tout. Et donc, mon rêve, c'est d'allonger ça. Mais du coup, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Comme je disais, là, ça coûte déjà 8000 balles, les 3 minutes d'anime. Okay. Et ça prend un mois à peu près à faire. Donc, il faudra qu'on soit plus nombreux. Parce que là, pour l'instant, elles sont juste dans les délais un mois. Enfin, moi aussi, le temps que je rentre mon script est bidule. Donc, ça veut dire plus de monde, donc plus d'embauches. Enfin, évidemment, logique, quoi. Et un scénario plus long à mettre en image est bidule. Donc, il faut vraiment tout de suite, même pour ajouter une minute, il faut vachement augmenter les revenus. Mais tu vois, on réfléchit à ces trucs-là. Donc, est-ce qu'on a assez de sous pour faire ça ou non? Si on n'a pas assez de sous, combien il nous manque? Voilà, et des trucs pour m'aider, comme prendre un community manager ou une community manager. Enfin, etc. Bref. Mais comme en ce moment, on est tout juste, Marie, elle vient juste de rejoindre la barque et elle est en train de faire le point sur tout ça et tout, mais très, très very soon, je pense qu'on pourra savoir où on en est et parce que du coup, moi, j'ai la trouille de me lancer, tu sais, de dire, allez, on fait ça et en fait, tout l'argent, il disparaît d'un coup parce que ça coûte très cher d'embaucher des gens et c'est normal, mais ça m'est déjà arrivé. Et donc, bref. Donc, je fais attention et je suis plus prudente maintenant. Mais bref, donc j'attends qu'elle me dise ça et qu'on se rende compte. Et si on n'a pas assez d'argent, on va dire à Nawel, ok, qui est donc notre agent. Donc, ouais. Allez, Nawel, il nous manque, je sais pas moi, 20 000 euros pour faire cette saison-là. Donc, go trouver des placements de produits, des machins. Et c'est ça le budget qu'on doit attendre pour le faire. Et voilà. Mais du coup, on est plein de cerveaux ensemble. Déjà, c'est rassurant parce que tu as des gens qui vont t'aider et tout à faire comme il faut. Et en plus, moi, je peux me consacrer à la créa, quoi. Et m'occuper en fait de l'administration, dis donc, ça me prenait vachement de temps aussi.
Ouais.
Répondre à les mails, signer les feuilles de paye, faire les virements et tout, c'est con, mais ouais, ça prend beaucoup de temps. Donc maintenant, c'est Marie qui s'occupe de ça et c'est un grand bonheur pour moi.
Mais t'as dû même limite te cramer, quoi.
Oui, ça a été le cas là.
Okay.
Ça a été le burn-out. Je sais pas à quel moment tu dis que t'es en burn-out. J'ai pas vraiment été diagnostiquée purement chez le médecin. Je suis quand même allée un coup et je me suis fait prescrire des anxios quand même. Ouais, ouais.
C'est un signe.
Ouais, ouais, c'est plutôt. Bah, en fait, j'ai eu. Enfin, entre septembre et décembre, ça a été beaucoup trop intense. Jusqu'à mi-novembre, j'ai eu un week-end, je crois. Parce que c'était la rentrée et qu'il y a toujours plein de trucs à la rentrée. Et que, franchement, problème de riche total. Ma chaîne, elle marche bien, la carrière, elle marche bien. Donc, je suis très sollicitée. Donc, c'est trop cool. Mais je suis épuisée, je suis éclatée sur plein de projets en même temps.
C'est pas un problème de riche. Je crois qu'en
fait... Non, mais tu vois ce que...
Ouais,
ou alors je
suis
pas assez riche pour embaucher des gens, pour faire ma place, je sais
pas. Non, mais c'est pas ça. C'est que je crois que quand tu dis ça aussi, t'es pas en train de reconnaître le truc que tu t'es cramé la gueule, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire que...
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Faut aussi...
Je veux dire qu'il y a pire, mais c'est un problème. C'est un vrai problème et je me suis mise... Enfin, j'ai été dans un état d'épuisement... alarmant quand même, mais j'ai de la chance dans le sens où je sais il y a des gens qui décrivent les burn-out où ils sont cloués au lit pendant des mois, après ils se relèvent plus, j'ai pas eu ça, je pense que j'ai écouté les signaux à temps, mais quand même j'ai eu un truc où en fait tellement t'as de charge mentale et de trucs à penser dans la journée et de notifs de ton agenda qui sonne et de gens qui te demandent un truc et de bidules, qu'en fait il y a eu un moment où juste des potes qui me parlaient pour me dire hey, coucou ça va, tu fais quoi ce soir, ça me submergeait, tu vois. Genre vraiment, la conversation banale ou les conversations de groupe qu'on a tous sur Messenger, WhatsApp et tout, je pouvais plus les ouvrir et tout parce que ça me faisait encore des trucs à traiter, tu vois. Genre tes potes étaient devenus une tâche dans ta to-do.
Ça aussi, et c'est un bon signal de t'es en train de te cramer la gueule.
Voilà. Donc c'est là où j'ai fait, ok, c'est pas normal que ça te fasse une boule dans le ventre parce que t'as une copine qui t'écrit comment ça va aujourd'hui. Enfin, qui prend des news ou qui te demande un truc, c'est pas normal, tu vois. Parce que juste, en fait, t'as du bruit tout le temps. Enfin, une charge mentale de malade et ça fait vraiment... quand ta vie est une to-do géante, c'est une tâche de plus sur ta pile de tâches que de répondre à cette personne au milieu du mail et du call que t'es en train de prendre. Et... Bref, donc, j'ai fait, ok, c'est pas bon. Et surtout, j'ai plus aucun plaisir dans ce que je fais. Et là, je suis en train de sortir des sujets de vidéo pour sortir des sujets de vidéo. Il n'y a plus aucune âme, ce que je te décrivais un peu. Et en plus, le pire, c'est que j'ai connu la dépression les années d'avant pour d'autres raisons. Et en fait, je n'avais pas perdu. Pourtant, l'âme du travail, c'était plutôt le truc qui me tenait et qui me faisait du bien. Même si j'étais un peu humainement éteinte, mais voilà. Mais là, tout ça, c'est fini, tu vois. Et là, j'étais juste éclatée, tu vois. J'avais le cerveau fondu, quoi. Et donc, j'ai fait, bon, plusieurs choses. Il faut que je délègue certaines tâches. Donc, c'est bon, maintenant, t'as trimé, il y a de l'argent qui est rentré, tu peux embaucher quelqu'un pour faire ça. Trop bien. Et surtout, il y a quelqu'un maintenant qui va t'aider à faire, bon, ben là, il n'y a plus d'argent pour payer, donc on doit faire rentrer de l'argent. Donc, le truc va vivre, c'est bon. Enfin, je suis rassurée, en tout cas. Et surtout, j'ai lâché certains trucs. Et j'ai commencé à dire non à des projets qui pourtant étaient trop cool, et notamment j'ai arrêté Arte.
Okay.
Parce que je fais des chroniques à la télé pour Arte, pour l'émission Faire l'histoire de Patrick Boucheron, qui est trop cool, et c'est une émission trop stylée, ils ont été trop mignons avec moi, mais là j'ai fait, ok, j'en peux plus, et ça c'est une hebdo, et c'est pas ma prio, même si c'était très cool d'être là, et que vraiment, c'est pas du tout par rapport à eux, mais c'est juste, je suis épuisée, faut que j'arrête un truc. Ce sera ça parce que j'ai ça, la chaîne, les réseaux et un podcast sur Spotify, tu vois.
Oui, et on n'en a pas parlé avec
Alex. Ouais, non, mais trop de choses, donc trop trop bien. Mais le podcast, non seulement c'est une expérience nouvelle que j'avais envie de tester plus longtemps, en plus je suis engagée sur mon contrat, voilà. Mais en plus, ça me demande très peu de travail, le podcast. Il y a un auteur qui nous prépare tout, un documentaliste qui nous prépare tout le contenu, les auteurs qui nous écrivent les blagues avant et tout.
Et vous jouez,
donc on
en
y
fait.
Va, on répète et ensuite on joue le truc et c'est la discussion avec l'historienne ou l'historien qui fait le contenu. Donc c'est vraiment effort minimum pour moi. Donc même si je check le script avant d'y aller, mais tu vois, donc c'est pas moi qui fais les recherches ni rien. Donc c'est pas une activité chronophage et en plus c'est une activité qui me plaît beaucoup et j'ai vraiment du plaisir à le faire. Donc c'était pas le truc que je voulais arrêter. Par contre Arte, c'est moi qui faisais tout, c'est moi qui écrivais, c'est moi qui tournais, c'est moi qui montais. Il y en a une par semaine, même si je les tournais en groupe. Mais du coup, et en plus isolés, parce que ils étaient super sympas, la boîte de prod était trop cool, tout se passait très bien, mais on était de notre côté avec mon réel, ce qui était bien pour plein de trucs, pour notre indépendance et notre gestion de l'emploi du temps. Et en même temps, c'est pas une expérience de plateau ou de machin où t'as d'autres collègues, où j'aurais découvert un monde nouveau, c'était encore faire des petites vidéos. Donc j'ai fait, bon, ok, c'est cette activité-là que je dois arrêter, même si ça m'a vraiment... ça m'a fait de la peine.
Ça serrait le cœur un peu.
Ouais, ça m'a serré le cœur, ça m'a fait un truc de... un aveu d'échec un peu, tu vois, genre bah voilà, en fait t'arrives pas à tout faire, et ça c'était
donc,
cool, bah ouais, mais tu sais, et ça c'était cool, c'était vraiment cool, et je suis fière de, parce que l'émission elle est encore diffusée, enfin mes chroniques, je pense qu'elle veut, je crois qu'en ce moment on diffuse ce qu'on a tourné il y a un an, donc je vais quand même être dedans, okay, visible un moment, même si là je leur en produis plus et que quelqu'un a pris le relais, mais ça me fait, je suis fière, tu vois, je suis fière de faire ça, et c'est, enfin bref, j'en tirais du plaisir évidemment, sinon je serais pas allée. Mais là, du coup, je me suis dit, il faut arrêter. Donc, j'ai eu le petit pincement au cœur de leur dire et tout, alors qu'ils ont été adorables. Enfin, vraiment trop mignons. Mais après, en fait, en vrai, deuxième sensation, c'est soulagement, tu vois. Et là, je commence enfin en janvier à avoir un emploi du temps fucking normal. C'est-à-dire que les tâches que j'ai à faire, elles rentrent dans ma semaine, elles rentrent dans ma journée. Je fais attention de dire non à, pour pas prendre plus, pour pas retomber dans le truc de ouais, attention, il y a trop de choses. Je regarde à quoi ressemble mon agenda et je fais ok, non, tu peux pas dire oui à un truc en février. Là, c'est full. Même si c'est trop bien, c'est comme ça. Et je fais attention à prendre mes week-ends. Je fais attention à le soir, c'est fini. Voilà quoi, okay, sauf deadline impossible, tu vois, mais genre là, je veux partir en vacances la semaine prochaine, donc je pense qu'il va y avoir un peu les deadlines de je finis ma vidéo vite, vite, tant pis,
ouais,
mais c'est pour aller en vacances après, donc is ok, tu vois, mais j'essaye de faire attention à ça, parce que là, j'ai senti le, bah, tu vas clamser, enfin, clamser, tu vois, tu vas t'effondrer, et ça sert à rien, et... C'est bon, faire pour faire, surtout si t'as plus aucune saveur dedans, tu sais, genre vraiment, tu vois, j'y allais, je me réjouissais plus de rien, c'est fou quoi, je faisais des trucs cool et on proposait des trucs trop cool, j'étais là, ah cool, tu sais, et tout était genre, j'ai été dans une campagne d'affichage de YouTube,
ouais,
hyper flatteur, trop sympa, YouTube il m'appelle et tout, à moi parmi tous les créateurs qu'ils ont et tout, donc on était qu'un tout petit groupe à être choisi et tout. Donc, trop fière de faire ça, tu vois, et hyper contente et tout, et encore des revenus pour financer les projets, donc trop, trop bien, tu vois. Donc, ravie, et franchement, à une autre époque, je pense que j'aurais été surexcitée. Et là, en fait, ça m'a fait « Ah, cool !» Et j'ai fait le shooting, j'ai fait « Cool !» Et je l'ai partagé sur les réseaux, mais parce que, épuisement, tu vois, et je me suis dit « Mais putain, fais chier, c'est trop bien !» Enfin, j'ai conscience que c'est trop bien, et je suis... Mais bref, j'ai essayé de travailler le boost de ça et retrouver le goût et tout, et notamment un soir où j'étais fatiguée et machin, je me suis dit vas-y, faut que tu sois fière à nous, parce que je me sentais aussi comme une merde et je me sentais nulle et nana, tu vois, j'avais l'impression de... enfin bref, t'es comme genre, ouais, tu fais le cercle vicieux de tout est nul, en plus ce que je fais c'est nul et voilà, les gens s'abonnent plus et blabla, bref. Et en fait, je me suis dit, non, mais c'est juste que ton ego est au plus bas, alors qu'il n'y a pas de raison particulière. Et du coup, tu prends trop mal les petites attaques en plus. Les commentaires haineux, ils sont fois 1000 et tout, tu vois. Alors que, bon, ils ont toujours été là, et d'habitude, tu t'en fous, tu sais, mais bref. Et je me suis dit, cette campagne d'affichage, tu sais, c'était des pubs dans les magazines, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue.
Dans les gares et tout.
Ouais, et donc à Paris, je suis allée voir une des affiches, mais c'était entre guillemets des petites affiches électroniques sur des assez petits panneaux publicitaires. Donc j'ai fait, bon, c'est cool et tout, mais à Bruxelles, il y a des panneaux immenses à la gare et à l'aéroport et tout, et les gens, ils m'envoient les photos de ces trucs-là, et moi, je les vois pas, alors qu'il y a ma tête en géant quelque part, et que ça m'est jamais arrivé, et je pense pas que ça m'arrivera souvent, tu vois, parce que je suis pas...
Prends un train.
Voilà, et ben j'ai fait ça. Et j'ai
T'es
fait...
allé Trop bien.
Attends, je vais le voir en vrai, tu sais quoi.
Bien sûr.
J'ai fait demain, en plus c'est juste à côté, Bruxelles, depuis Paris, là, j'ai fait, tu sais quoi, j'y vais. Et je vais voir mon affiche géante à
tu
Bruxelles et je vais être fière et machin et trop cool et je me fais ce truc pour moi et je kiffe le machin et je me fais une soirée à Bruxelles où en plus j'étais jamais allée de ma vie et j'adore voyager seule et du coup j'ai fait ma petite soirée rien qu'à moi tranquille à Bruxelles où je me balade dans les rues, je visite et tout, c'était trop bien. Le lendemain j'ai vu une copine et je suis rentrée et ça m'a fait trop du bien, tu vois. Et ça m'a fait non seulement un petit break mais aussi un petit truc de hey, savoure là, c'est cool, tu vois. Sois content de ce truc-là au lieu de... Enfin, facile à dire, mais tu sais... enjoy le... comment dire, celebrate, oui. Putain, alors, je suis insupportable, j'ai que les
celebrate
mots.
Celebrate the moment.
Insupportable, mais genre, c'est quoi le mot, tu sais, genre, ouais, c'est ça, célèbre. Il y a le mot en français maintenant qui est vraiment le même. Célèbre ce truc, faites-le et vis-le et tout, et c'est trop bien, et ouais.
Puis on sent la gratitude aussi, tu vois, voilà, du chemin accompli, parce que t'es pas là non plus par hasard, quoi, t'es là parce que, enfin, cette pub n'est pas là non plus par hasard, c'est parce que t'as accompli
on a
tout
taffé.
Ça, quoi.
On a taffé, putain. Carrément. Donc voilà. Donc je travaille à ça et là ça porte ses fruits.
T'es suivi en thérapie ou un truc comme ça?
Ouais.
Ah yes.
Carrément.
Ça peut aider, hein, souvent.
Très important. Bah j'avais plus là ces temps-ci, j'ai repris justement. Non, trop important. Moi j'ai pas peur du psy ou machin comme certaines personnes peuvent avoir ou avoir du mal à y aller ou quoi. Ouais. Pas du tout. Quand j'étais en dépression à l'époque aussi, j'ai eu aucun problème à dire ouais, j'ai besoin d'antidep, j'ai pris des médocs et alors vraiment sans aucun. Pas peur et pas de complexe et en mode bah, tu sais quoi, quand t'as mal au ventre, tu prends un doliprane, là, t'as mal à la tête, tu vois, tu soignes ta tête, c'est normal, t'as le droit, c'est une béquille, c'est ok. Je suis pas. Donc oui, je le fais. Et heureusement, je pense, parce que. Il y a eu des hauts et des bas, les dernières années. Mais bref, ouais, carrément.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler?
Écoute, non, je sais pas. En tout cas, j'ai tellement parlé. Purée, je sais pas combien de temps ça fait, mais je suis
1h30, on est dans un format assez normal de podcast, okay. Hein, finalement. Une heure et demie, c'est toujours bien, mais non, c'était très intéressant.
Cool.
Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, d'avoir partagé aussi tes bas. Je trouve que c'est hyper important et
bah,
d'une manière générale, bien sûr, mais c'est souvent quand les youtubeurs ou tous les gens qui créent du contenu finissent par craquer leur race et par s'arrêter pendant 6 mois, etc., qui finissent par le raconter. Et je trouve que c'est hyper cool que tu viennes raconter, que tu vois, tu as réussi à capter le moment. En plus, même, ça peut arriver dans n'importe quel job si vous êtes salarié.
Absolument.
Quoi. Donc,
absolument, ça arrive partout.
Faites attention à ça. Quoi.
Il faut vraiment y prêter attention. Hein. Ça te met par terre. Et puis, alors, nous, on est tout le temps sujet aux chiffres. On est tout le temps en train de mesurer. On a tout le temps des mesures de nos stats, de nos trucs qui sont ingrats. Et ça, c'est assez malsain quand même. Hein. Parce que si tu te compares pas aux autres, tu te compares minimum à toi-même. En mode, ah non, mais pourquoi avant je faisais plein de vues, puis maintenant j'en fais plus, puis ah, ça y est, c'est reparti, et tu prends des shoots de dopamine, et après ça s'effondre, mais en fait ça s'effondre pas, mais c'est juste que. Enfin bref. Donc ça, c'est des trucs que j'apprends à gérer petit à petit, et en fait que j'avais pas. Ça fait pas si longtemps que j'ai, parce que ça fait pas si longtemps, c'est avec les épisodes animés qu'on a commencé à vraiment faire tourner la chaîne et à vraiment. Faire beaucoup de vues et machin.
Ça a explosé les vues.
Voilà, ça a vraiment changé le truc. Avant, ma chaîne était relativement. Là, c'était cool, hein. Mais on était plutôt sur du 200 000 abonnés, 100 000, 200 000, ce qui était carrément cool pour une chaîne de vulga et tout. Mais ça nous a fait passer un cran.
T'es à 650, c'est bientôt 700, là, c'est ça
600 000 abonnés. Ouais, je crois. C'est un peu moins de 650 000, okay. Je pense. Mais tu vois, bah là, voilà, ces derniers mois, ça se freine vachement et je fais « Oh non, pourquoi t'as ta bonne casquette qui passe ?» Et en fait, y a plein de paramètres à regarder. Bon, il y a des choses, il faut quand même, ça veut pas, il faut pas juste dire « c'est l'algo, c'est la faute de l'algo, point barre ». Il faut réfléchir à toi, quels sont les critères, tu vois, comme je te disais, avec les placements de produits, peut-être ça saoule les gens, peut-être les sujets de la dernière vidéo étaient pas si fous et tout, voilà. Et en plus, comme c'était dans cette période de sécheresse créative, ben, peut-être pas très étonnant finalement, tu vois. Mais en fouillant aussi dans mes analytics, je me suis rendu compte que sur mes dernières vidéos, avec l'exception de Picasso qui a vraiment tourné, mais sinon sur toutes mes dernières vidéos, en fait l'algo il l'a montré à 70% à des abonnés et à 20-30% à des non-abonnés. Du coup en fait il n'y a pas de nouveaux qui sont arrivés sur ces vidéos, contrairement à il y a 6 mois où on est sur du 60-40. Et je fais ah bah voilà, divisé par 2 le nombre de gens à qui c'est montré, bah, divisé par 2 le nombre d'abos. Et en fait je fais bon bah ça j'y peux vraiment rien quoi, enfin je sais pas, ou alors c'est un truc de ma miniature où il se dit je peux pas le montrer à des nouveaux gens, j'en sais rien tu vois, mais là il y a un truc vraiment, un paramètre de bon ça ok quoi, tu vois, c'est en fait c'est logique, c'est les abonnés, bah déjà cool parce que les abonnés ils ont regardé, mais il y a eu très peu de nouveaux, il y a eu beaucoup moins de nouveaux venus, donc en fait il y a eu beaucoup moins d'abonnés et tu comprends un peu mieux tu vois. Donc ça permet ça. Mais par ailleurs, ça t'assujettit à ces noms tout le temps et ça tape sur le système, quoi. Et j'admire les gens qui arrivent à être totalement détachés de ça. Moi, c'est pas mon cas, tu vois. une ou deux vidéos en dessous, ça c'est régulier, ça arrive et tout, c'est ok. Mais quand t'as une courbe comme ça générale, tu fais ah putain merde, il y a un problème quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et si on continue à décroître tout le temps, bah l'émission elle va mourir ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, donc bref, moi je suis pas toujours très zen par rapport à ces trucs-là, mais j'apprends à travailler ça parce que ça fait pas si longtemps que je jongle avec des plus gros chiffres, donc j'apprends à comprendre ça, puis j'écoute les autres aussi. Comme tu dis, c'est trop bien d'entendre les autres parler de ça. Genre, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo de Mastu qui parlait de sa dépression avant. Et ouais. Il explique qu'il a explosé 1 million d'abonnés. Puis en fait, il avait atteint son but. Et son du coup, goal. D'un coup, sa vie était vide. Et en fait, bah, voilà, il était dans ce cercle
le
de produits.
Et,
ouais, et totalement. Et en fait, c'est un gros paradoxe. De, tu te mets à marcher et du coup, en fait, tu rentres dans d'autres logiques de... bah, dès que c'est moins, enfin, t'as plus les mêmes objectifs, puis si ça diminue, tu déprimes, puis nani, et puis ça te met la presse, ça te met une pression de malade et tout. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et cool qu'il en parle aussi, ouais, carrément.
Très important. Puis grave. Un public jeune en plus, donc c'est encore très très bien de parler de santé.
Ouais, grave, c'est, oui, carrément, c'est trop bien. Je trouve ça cool que les nouvelles générations soient un peu plus au fait de ces trucs-là.
Les nouvelles générations.
Bah ouais, maintenant, bon, non, mais c'est ok, hein. Nous, on n'est pas des vieux, mais on est des adultes. Non, mais je sais pas comment. Enfin, moi, j'aime bien être un adulte déjà, ça
oui,
me plaît.
Oui, d'accord.
Mais je trouve ça trop cool que, ouais, clairement, les nouvelles générations, les plus jeunes que moi, en tout cas, ils soient plus au fait que ce que moi je l'étais à leur âge.
Tu m'étonnes.
De ces trucs-là, je trouve ça trop bien parce qu'ils auront plus de clés pour naviguer dans ces trucs-là où nous, on comprenait pas quand on faisait une dépression, un machin, qu'est-ce qui se passait, quoi. Et c'était, ben ça, t'as qu'à te lever le matin et oui. Prendre l'air, ça va aller, tu vois.
Manger
on en
un
parlait
morceau,
comme ça, ça. Voilà, on en parlait comme ça, mais c'est bon, va voir des amis. Oui, ta rupture, ok, mais va sur Tinder, t'es. Et on comprenait pas. Non, mais tu vois, on en parlait quand même et tout, mais on avait moins de clés sur ça, je pense. Donc, trop bien s'ils ont plus d'outils sur ça et qu'ils sont plus libres d'en parler aussi. C'est comme tu dis, en parler, c'est déjà l'accepter aussi.
Bien sûr.
Et le conscientiser. Donc, tant que tu l'as pas conscientisé, tu peux pas le traiter, le truc. Donc, voilà quoi.
Carrément, le constat, c'est important.
Je suis si bavarde.
Merci beaucoup, Manon.
Blablabla.
C'était super, vraiment.
Bon, ouais, cool, trop bien. Merci pour l'invite.
Bon, je mettrai tous les liens, afin que les gens puissent te découvrir sur le TikTok, sur
Manon
les Instagram,
Grille,
sur le YouTube.
QACUH, comme c'est une autre histoire pour les réseaux, et sinon, c'est juste, c'est une autre histoire sur YouTube, en gros.
C'est vrai.
Voilà.
À plus.
Venez.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.